18h, 20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 18-20 sous ce grand soleil de printemps de février. Au menu de ce dimanche, 2 heures d'information avec des grands journaux à 18h et à 20h et à 19h, pardon, du sport. Ce sera 20h aussi du sport et des médias avec Cyril Ferraud et le retour de la carte au trésor. Et également des questions. Est-ce une révolution fiscale, un ballon d'essai ou une erreur de communication? Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, propose de faire payer l'impôt sur le revenu par tous les Français dès le premier euro touché. Une mesure présentée comme symbolique alors que le mouvement des Gilets jaunes s'est construit justement contre l'augmentation des taxes. On en parle avec Gabriel Siri, elle est porte-parole du PS, un parti traditionnellement favorable aux impôts nouveaux. Que vient faire la street culture aux Jeux Olympiques? C'est la question que se posent les amateurs de squash, de karaté ou de pétanque depuis qu'ils savent qu'au JO de Paris en 2024, il y aura des compétitions de breakdance, cette danse pratiquée autour du hip-hop, autour du rap. Et pour en parler, nous aurons la chance d'avoir avec nous une sorte de légende, le pionnier de cette discipline en France, Sydney, présentateur de la mythique émission HIP. HOP sur TF1 en 84. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et j'entends Marlène qui frémit déjà.
Ah ouais, bonsoir Marlène. Je suis ravie. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous et à chacun. Réagissez à tout moment en publiant un petit commentaire sur Twitter, hashtag Europe 1 ou encore sur Europe1.fr. 18h, on est bien sur Europe 1. Bonne fin de journée à tous. Et tout de suite, le journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Déjà plus de 1300 hectares partis en fumée en Haute-Corse. Il y a eu aussi des départs de feu en Corse du Sud. Des moyens aériens arrivent en renfort ce soir depuis Brignoles. Et si tout le monde payait l'impôt sur le revenu, vous en parliez. Débat ouvert ce matin dans le JDD par la ministre de la Cohésion des Territoires, très vite refermée par Matignon. Nous verrons pourquoi. La déception au sein même de l'Église après le discours de clôture du pape sur les abus sexuels sur les mineurs. Enfin, nous irons porte de Versailles à Paris avec des animaux bien étonnants au salon de l'agriculture.
Europe 1. Et on commence ce journal par les pompiers qui se battent toujours contre les feux en Corse.
Un combat qui n'est pas facilité par le vent qui souffle sur l'île. Déjà plus de 1300 hectares partis en fumée en Haute-Corse et des moyens aériens qui sont arrivés en renfort ce soir, Pauline Jacquot.
Oui, deux Canadairs sont en train de survoler la région de Calenzana au sud de Calvi. C'est là d'où est parti l'incendie hier soir. Samedi 20h, le feu attisé par des rafales de vent. Les flammes ont frôlé les habitations. Aucune n'a été touchée. Mais le maire de Calenzana, Pierre Guidoni, raconte une nuit extrêmement éprouvante.
J'ai eu peur pour les habitants, j'ai eu peur pour les habitations. On a évacué deux résidences, on a évacué la gendarmerie. C'était affreux, je vous dis franchement. Le feu, il est passé tellement vite qu'il a pris la direction du Prat, du col de Prat. Et là, malheureusement, il est aux portes de la forêt de Boniface.
Le feu n'est donc toujours pas maîtrisé. Le préfet de Haute-Corse souligne qu'il ne menace aucune habitation. 150 pompiers sont encore, à l'heure où nous parlons, déployés dans la zone. Des renforts doivent arriver ce soir. Quant à savoir l'origine de cet incendie, la procureure de la République de Bastia a ouvert une enquête. Les experts sont en train de mener les premières constatations.
Et il y a eu d'autres départs de feu en Corse du Sud.
À l'est d'Ajaccio, notamment à Tola, le feu a brûlé 80 hectares. Des incendies moins importants qu'en Haute-Corse, mais toujours pas maîtrisés d'après la préfecture. Les flammes pourraient s'approcher d'autres communes. Des renforts ont été là aussi envoyés cet après-midi. 15 départs de feu ont été enregistrés en Corse du Sud depuis hier. La gendarmerie a ouvert plusieurs enquêtes pour déterminer l'origine de ces feux.
Pauline Jacquot.
Hypothèse, et si tout le monde payait l'impôt sur le revenu?
Idée en tout cas lancée ce matin dans le journal du dimanche par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. Idée très vite entirée par Matignon, Adrien Beck.
Oui, la piste n'est pas à l'étude, a évacué dès ce matin l'entourage d'Édouard Philippe. Non, on n'y travaille pas, surenchérissait-on à Bercy. Très vite recalé, donc l'impôt sur le revenu pour tous, esquissé ce matin par Jacqueline Gourault. Son idée que chacun contribue à la hauteur de ses moyens, même les plus modeste, même 1 euro. La ministre qui déplore la surconcentration du système fiscal sur les classes moyennes, sauf que tous les Français paient déjà la CSG et la TVA. Et surtout à l'Élysée comme à Matignon, on sait très bien qu'avec les Gilets jaunes, la question de la fiscalité est explosive. On ne sortira pas d'une crise née d'un ras-le-bol fiscal par une hausse des impôts, martèle un conseiller de l'exécutif. Fermer le banc donc, le gouvernement ne compte pas plancher sur le sujet d'un impôt universel sur le revenu. Et les ministres, eux, sont priés d'éviter d'avoir une trop grande créativité fiscale. Message dans l'entourage d'Édouard Philippe, il y a plein d'autres sujets à mettre au débat que celui de la fiscalité.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Ce matin, Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Et vous allez l'entendre, pour lui, toucher à l'impôt sur le revenu, ce n'est vraiment pas la priorité.
Je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas trop toucher à la fiscalité. Vous savez, il y a cette question de l'ISF, qui semble-t-il est tabou dans le débat. Je comprends pourquoi Emmanuel Macron a voulu réformer l'ISF, parce que tel qu'il était, il n'était pas parfait. Et je comprends aussi pourquoi, du coup, on ne souhaite pas le rétablir. Mais vous ne parviendrez pas à rétablir le consentement à l'impôt des plus pauvres ou des classes moyennes dans ce pays s'ils ont le sentiment que les plus riches échappent à l'impôt. D'une façon ou d'une autre, il faudra, je crois, que cette question soit traitée. Et qu'en effet, à la sortie du débat, il y ait des mesures qui fassent en sorte qu'il y ait un signal que les plus riches sont amenés à contribuer davantage à la solidarité nationale.
Pierre Moscovici, ce matin sur Europe 1.
Le sommet sur les abus sexuels dans l'Église s'est terminé cet après-midi à Rome par un discours du pape François.
Un discours qui a clairement déçu aussi bien dans les rangs de l'Église que chez les victimes. Virginie Riva, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome.
Oui, certains évêques qui participaient au sommet l'ont même dit à demi-mot. De son côté, la communication du Vatican a tenté, après, de justifier ce discours. Il ne s'adressait en réalité qu'aux participants, explique-t-on. Il n'empêche, le pape fait de la pédophilie un fléau qui a toujours existé, de tout temps et partout, minimisant la pédophilie dans l'Église. Et pour lui, les causes seraient même diaboliques.
Dietro di questo c'è Satana.
Derrière cela, il y a Satan. Si on tient compte de l'étendue de la pédophilie, ce ne peut être que la manifestation actuelle de l'esprit du mal. Si on ne retient pas cette dimension, nous resterons loin de la vérité et sans véritable solution.
Un argument qui fait bondir Peter Sanders, victime anglo-saxonne.
C'est très décevant, beaucoup plus décevant que ce à quoi on s'attendait. Le fait de dire que c'est le diable, Satan, que c'est un problème mondial, non mais encore une fois, tout ça n'est qu'une diversion pour éviter de répondre à ce que nous demandons, que l'Église prenne enfin des mesures pour protéger les enfants.
Après la clôture du sommet, le Vatican a bien tenté d'annoncer quelques mesures, comme la prochaine promulgation d'une loi sur les abus sexuels sur mineurs à l'intérieur de la Cité du Vatican. Des mesures peu convaincantes pour le moment.
Virginie Riva, envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome.
Dans un instant, on va prendre la direction de la place de la République à Paris pour une manifestation cet après-midi contre un cinquième mandat du président Bouteflika.
18h08, la suite du journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Bandel.
La contestation a commencé vendredi en Algérie avec plusieurs milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour dénoncer la nouvelle candidature du président Bouteflika.
Et aujourd'hui, c'est à Paris que les manifestants, qui pour la plupart avaient la double nationalité et qui pourront donc voter pour cette élection, ont dénoncé ce cinquième mandat. Place de la République, témoignage recueilli par Jeanne Bergaoui.
Je suis contre le cinquième mandat qui est proposé par M. Bouteflika, qui n'a pas eu les forces physiques pour tenir le pays.
Nous voulons un changement radical et pacifique. Donc, le 22, c'est une date historique. Il y a un avant et un après. Maintenant, nous avons le rapport de force, et un rapport de force favorable, c'est-à-dire le peuple peut exiger un changement démocratique.
On veut du renouveau, on veut du changement, on veut que le peuple algérien prenne les rênes de sa politique, de son pays. Je suis très optimiste.
Et c'est le 18 avril qu'aura lieu cette élection présidentielle.
Nous y étions hier soir pour le 18-20, direction maintenant le Salon de l'agriculture.
Et près du studio Europe 1, nous avons pu admirer entre autres l'une des stars du salon, la Bleue du Nord, la vache Imminence, mais Maud Descamps dans le Hall 5. Vous avez découvert des animaux bien surprenants, bien loin des traditionnelles vaches et cochons.
Ah bah oui, je peux vous dire, hein, Fabienne, qu'on est loin de l'univers des Primolstein et des blondes d'Aquitaine. Hein. Devant moi, eh bien, il y a des lamas, des chameaux, des zèbres, des dromadaires. Et évidemment, eh bien, ça surprend plus d'un visiteur.
On n'a pas l'habitude de voir des races comme ça. Ça a l'air rustique.
On n'a pas toujours l'occasion de voyager dans le monde, mais c'est une façon de voyager aussi. C'est très joli.
Bah, je m'attendais pas du tout à ça, effectivement. C'est la première fois que je vois un chameau. Mais je crois qu'il m'aime bien. Je crois qu'on va devenir amis tous les deux.
Et il a raison, ce visiteur. Il y a de fortes chances qu'il fasse copain-copain avec ce chameau parce que c'est une des caractéristiques de cet animal. Il aime être au contact de l'homme. Écoutez Julien, c'est son éleveur.
C'est plus câlin qu'un cheval. C'est un animal qui a besoin de compagnie et il nous assimile à lui-même. Donc c'est un animal très bien dans sa tête et qui forcément vient vers les gens. Et ça en fait du fait un animal super sympathique.
Et si vous êtes un peu téméraire, eh bien je vous invite à venir passer une tête au hall 5. Vous pourrez goûter du lait de chameau. C'est plein d'oméga 3, m'a-t-on dit, donc c'est excellent pour la santé.
Bien noté, Maud Descamps.
Et puis tout le week-end, Europe 1 vous a accompagné à la montagne.
Voyage en train depuis Paris, monté en station à l'Alpe d'Huez, Hélène Terzion a franchi toutes les étapes pour chausser les skis.
Alors exactement, à cette heure-ci, les remontées mécaniques sont à l'arrêt et les skieurs sont déchaussés. Ces skieurs, justement, j'en ai rencontré toute la journée. Je peux vous dire qu'il y en a de toutes sortes. D'abord, ceux comme Boris qui montent pour la première fois sur les skis.
Pour la première descente, je suis allé tout droit, on va dire. Je suis resté droit, à peu près.
Franchement, c'est bien, il y a de la vitesse et tout, c'est super.
Le moment du tir-fest, c'est assez exceptionnel. Faut être prêt, quoi.
Je suis pas tombé une fois encore.
Il y en a d'autres, comme Jean-François, mon voisin de télésiège, qui apprécie tout simplement les conditions idéales pour faire du ski.
Ah, c'est super sympa. L'arrivée là, entre les arbres, avec le petit ruisseau, le grand soleil, le ciel bleu, c'est vraiment sympa.
Et puis, il y a forcément ceux qui aiment la vitesse. Philippe, par exemple, nous donne les règles du tout-chou.
Vous fléchissez le maximum et vous accroupissez le maximum. Les bâtons dans le sens de la pente. Et ça marche, tout ça.
Et enfin, ceux comme Julien qui s'aventurent sur la plus longue piste d'Europe, la Sarène, 16 km de long au départ du Pic Blanc.
Alors là, on est au sommet d'une montagne à 3330 mètres, je crois bien. Donc là, on va descendre visiblement la plus grande piste d'Europe. Voilà, je suis prêt. On l'a faite hier une fois, c'était sympa. On voulait la faire ce matin puisque la neige doit être plutôt bonne après avoir été dabé comme ça. Ça peut être sympa.
Les skieurs sont encore nombreux en bas des pistes, mais cette fois, c'est plutôt pour partager un vin chaud.
Hélène Terzian à l'Alpe d'Huez pour Europe 1.
Et c'était le journal de Fabienne Lemoyle. Merci beaucoup, Fabienne.
Il est 18h12, Philippe.
La météo, je sens que ça va être joyeux. C'est avec vous, Valérie Darmon. Et demain, le soleil et ses températures printanières persistent.
Absolument, Philippe, passez toujours les quelques brumes et les brouillards du lever du jour particulièrement présents des Pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine, sur les vallées de l'Auvergne et du Val-de-Saône. Ils se dissipent rapidement. Partout ailleurs, il n'est même pas question de brume. Le soleil est généreux depuis le matin jusqu'au soir. Un petit vent d'automne souffle en rafale jusqu'à 50 km/h dans son domaine. En revanche, plus de vent quasiment pour la Corse. Et puis, si de petites gelées sont présentes en haute vallée du Rhône, comme du centre à l'est, les températures minimale s'échelonne de 0 à 3 sur la moitié nord de la France, 2 à 5 sur la moitié sud et jusqu'à 7 pour Nice. Et les maximales, eh bien, elles gagnent encore quelques degrés et demeurent plus que jamais douces pour la saison, bien sûr. Elles évoluent entre 15 et 17 sur le nord et 16 à 20 sur le sud.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure.
Le journal des sports.
C'est avec vous, Julien Froment, le journal des sports, bonsoir.
Bonsoir.
Et on va commencer par le foot, 26e journée de Ligue 1 avec un match en cours et pas n'importe quel match.
Oui, direction le Roison Park. Rennes, qualifié pour la première fois de son histoire en 8e de finale de la Ligue Europa, reçoit Marseille. Stéphane Beignet, pour le moment, les Rennais toujours sur leur petit nuage.
Oui, sur leur petit nuage, 52e minute de jeu peut-être. Attention, Balotelli de l'intérieur du pied droit. Ça va passer au-dessus de la cage de Koubek. Eh bien, sur un petit nuage, les Bretons au Roison Park, ils mènent 1-0. Ça a été très rapide. 7e minute, le corner de Del Castillo, côté droit. La tête de Benjamin André, mais le ballon qui frappe le crâne de Balotelli. Et voilà comment le ballon est dévié dans la cage de Mandanda. Rennes a ouvert le score à la 7e. Ils ont eu une très belle occasion avec un coup franc de Grenier sous la transversale et Mandanda va claquer le ballon. Et puis sinon pour les Marseillais, eh bien une frappe de Germain au-dessus de la cage rennaise et puis un sauvetage à la 23e. Et puis à l'instant, une tête de Thauvin, mais Marseille est toujours menée ici à Rennes, 1-0.
Merci Stéphane, on vous retrouve dans le prochain journal des sports à 19h10. Cet après-midi, trois rencontres. Reims n'en finit plus de surprendre, victoire 4-2 à Montpellier. Les Rémois sont 5e. Nantes l'emporte 1-0 contre Bordeaux. Toulouse arrache le nul face à Caen, 1-1. Ce soir, le choc à suivre sur Europe 1, c'est entre Monaco et Lyon. Et juste avant le match, un nouveau rendez-vous justement à l'antenne, le studio des légendes, Giroud, Charles Biétry ou encore Le coach Jean-Claude Perrin seront autour de la table pour évoquer l'actualité foot. Le tout orchestré bien sûr par Lionel Rousseau. Rendez-vous donc de 20h à 21h pour le studio des Légendes.
Et puis dans l'actu foot à l'étranger, hécatombe pour Manchester United.
Oui, ça va pas très bien pour l'adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions qui a fait 0-0 contre le leader de la Première Ligue, Liverpool, match de la 27e journée. Mais surtout, les Red Devils ont perdu 3 joueurs. Lingard, Mata et Herrera sont sortis sur blessure pendant la rencontre. A noter aussi le Serbe Matic qui avait dû déclarer forfait. Et le 6 mars prochain contre Paris, Paul Pogba sera aussi suspendu, donc ça commence à faire vraiment beaucoup pour les Red Devils.
On va passer au rugby et c'est assez rare, donc on en profite. Lendemain de victoire pour le 15 de France.
Oui, 27-10 contre l'Écosse. Les Bleus s'évitent la cuillère de bois, se réconcilient en partie avec son public. L'entraîneur des adjoints des Bleus, Jean-Baptiste Elissalde, malgré une semaine pénible, y voit un acte fondateur pour le groupe.
C'est vrai qu'elle a été dans un sens un peu dure cette semaine, mais d'un autre côté, moi je l'ai bien aimé. J'aime bien quand ça cogne comme ça. Ce qui s'est passé dans la semaine, ce qu'on a ressenti sur, en dehors du terrain, et le fait qu'on soit tous resserrés, cette notion de groupe a été fondatrice de quelque chose. J'espère qu'ils s'en serviront. Il ne suffit pas que ce soit une semaine quand c'est la tempête, mais que ça doit être chaque semaine, même quand tout va bien.
Et Jean-Baptiste Elissalde donc au micro de Simon Rubin. Les Bleus ont une semaine de repos avant de défier le 10 mars prochain l'Irlande. Les Irlandais justement secoués en Italie, mais tout de même victorieux 26-16 au classement. Le Pays de Galles devance l'Angleterre. La France est quatrième. Enfin, un mot de ski à noter donc à Banksou en Bulgarie. Le tir groupé des Français sur le géant. La belle troisième place de Thomas Fanara. Alexis Pinturo est quatrième. Épreuve remportée par le spécialiste Marcel Hirscher. L'Autrichien en profite pour s'adjuger le petit globe de la spécialité.
C'était le Journal des Sports. Merci beaucoup Julien Froment. À tout à l'heure. À suivre, l'impôt sur le revenu pour tous, même si la contribution est symbolique, c'est l'idée de la ministre de la Cohésion des Territoires ce matin. On en parle avec Gabrielle Siri, porte-parole du PS, un parti traditionnellement favorable aux impôts nouveaux. Et on tentera également de comprendre la stratégie des socialistes pour les européennes. A tout de suite.
Bienvenue, si vous venez nous rejoindre sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir avec Philippe Bandel. 18h18, vous recevez maintenant votre premier invité, Philippe.
Question, est-ce une révolution fiscale, un ballon d'essai ou une erreur de communication ? Dans le journal du dimanche ce matin, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, propose de faire payer l'impôt sur le revenu par tous les Français dès le premier euro touché. Son principal argument, même symbolique pour une très petite somme, cet impôt pourrait créer, je cite, le lien entre citoyens et impôts. Bonsoir Gabrielle Siri.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du PS et économiste dans la vie civile. Que pensez-vous de cette proposition de la ministre Jacqueline Gourault ?
Écoutez, d'abord, je pense que je suis d'accord avec le fait que l'impôt est un acte citoyen, que le fait de payer des impôts, ça permet de financer les services publics qui bénéficient à la collectivité. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'est en train de faire cette nouvelle droite au pouvoir, c'est un peu la stratégie...
La nouvelle droite, c'est la République en marche.
C'est la République en
marche. Donc je vois déjà le petit moment de vocabulaire que vous venez de pointer.
Voilà. C'est un peu la stratégie du diviser pour mieux régner, si vous voulez, parce que ça oppose classe moyenne et classe populaire en laissant croire que les plus modestes ne paieraient pas d'impôts sur leurs revenus. Or, c'est faux, parce que les plus modestes, ils payent la CSG, qui est un impôt qui concerne les revenus du capital comme les revenus du travail. Donc, c'est déjà faux d'affirmer cela. Et ensuite, je pense que si on veut que chacun contribue à l'impôt, il faut aborder absolument la question de l'exil fiscal. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, la ministre, elle n'aborde pas la question de ce point de vue-là. Et je rappelle que ce gouvernement a supprimé l'exit tax. Oui. L'exit tax, c'était un impôt qui permettait justement de taxer les contribuables pour les décourager de partir à l'étranger pour des raisons fiscales. Et ça a été supprimé. Donc, si vous voulez, sur ces questions-là, l'hypocrisie sur les questions de justice fiscale, elle est assez insupportable.
Je vais passer de l'hypocrisie à la symbolique, puisque c'est l'argument avancé par la ministre. Moins de la moitié, seulement 47% des salariés payent l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, alors que la principale revendication des Gilets jaunes est l'égalité ?
Bah, encore une fois, c'est une manière de présenter les choses que de dire qu'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ils ne payent pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais il y a un impôt sur leur revenu. Mais en Europe, dans la plupart des pays, il y a un seul impôt sur le revenu. Et donc, pour s'assurer que chacun paye l'impôt sur le revenu, à mon sens, il faudrait fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG. Et je regrette que le Parti Socialiste ne l'ait pas fait quand nous étions au pouvoir. Ça fait partie des points critiques à mettre à notre bilan. Et je crois qu'il faut continuer à porter cette idée pour avoir un seul impôt progressif, c'est-à-dire dont le taux dépend du revenu, le taux augmente avec le revenu, et donc chacun contribuerait effectivement. Ça permettrait aussi de remettre à plat les niches fiscales, et donc de récupérer de manque à gagner de ce point de vue-là.
Et la proposition que vous faites a été faite ce matin par François Bayrou. Vous allez me dire que c'est quelqu'un de droite et je rappelle que la CSG avait été créée par quelqu'un de gauche. De mémoire, c'était le Premier ministre Michel Rocard. En revanche, Jacqueline Gourault ne serait pas contre une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu pour les plus hauts salaires. Est-ce que vous y êtes également favorable ?
Oui.
À combien ?
Nous avions...
La dernière tranche, de mémoire, c'est
45%. 45%, oui. Elle a été donc nous avions tenté sous le quinquennat précédent de mettre en place cette tranche supérieure et pour des raisons juridiques, voilà, pour des raisons juridiques, ça n'avait pas abouti. Moi, je pense que c'est une bonne proposition qui va vers plus de justice fiscale. La justice fiscale, c'est vraiment quelque chose déjà qui est au cœur des mobilisations des Gilets jaunes aujourd'hui et qui est au cœur de notre Constitution, puisque c'est écrit dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chacun doit contribuer à hauteur de ses moyens. Donc je pense que c'est une bonne proposition, effectivement.
Il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est la différence entre l'égalité et l'équité. Je me souviens que sur les ronds-points, une des premières revendications des Gilets jaunes, il y en avait qui trouvaient qu'on ne faisait pas assez payer les riches, mais d'autres qui réclamaient à ce que personne ne soit taxé à plus de 25% de ses revenus. Donc il y a deux manières de voir l'égalité fiscale. En France, par exemple, 10% des Français payent la moitié de l'impôt sur le revenu et 1% des Français payent 25% de l'impôt sur le revenu.
Oui. Mais alors là, c'est là qu'il faut prendre en compte ce qui a permis à ces personnes d'avoir aussi des revenus aussi élevés. Qu'on considère les services publics dont ils ont pu bénéficier, l'éducation par exemple en France, qui considère les infrastructures aussi, qui permettent de développer une activité. Donc si vous voulez, je crois qu'on...
Vous dire par là que l'éducation est gratuite, on obtient de bons diplômes, donc un bon salaire, mais qu'en fait il faut rendre à
la
collectivité l'État ce qu'elle nous a donné. C'est ce que vous voulez dire.
Il faut rendre à la collectivité pour ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, qui ont réussi grâce notamment à ces services fournis par la collectivité, effectivement, qu'ils en rendent une partie, ça me semble tout à fait normal. Et je souligne que le PS a fait une proposition de rétablissement de l'impôt sur la fortune.
De l'ISF.
Voilà. Et donc aujourd'hui, il nous manque environ une vingtaine de parlementaires pour pouvoir proposer un référendum aux Français sur la question de du rétablissement de l'impôt sur la fortune.
Vous récusez le fait que l'impôt sur la fortune soit efficient ou est-ce que vous voyez là, comme beaucoup de gens, une mesure symbolique ?
Je pense que c'est les deux. Il y a effectivement une dimension symbolique à l'impôt sur la fortune, mais sur la question de l'efficacité. Encore une fois, si on prouvait que la suppression de l'impôt sur la fortune permet réellement d'avoir plus d'investissements en France et de développer l'activité éventuellement, on pourrait en discuter, même s'il reste la question de la symbolique. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et surtout, je rappelle qu'une des conséquences principales de la suppression de l'impôt sur la fortune pour les entreprises, ça a été de priver les petites entreprises de manne financière, puisqu'il y avait un dispositif qui existait qui s'appelait l'ISF-PME. C'est une réduction d'impôt sur l'impôt sur la fortune, dans le cas où on investit dans des petites entreprises, et notamment petites entreprises innovantes. Et c'est près d'un milliard d'euros de ressources dont ces entreprises ont été privées aujourd'hui. Donc, si vous voulez, l'impact économique sur l'activité, il est même plutôt négatif à ce stade.
Mais alors, si c'était une si bonne mesure, qui marche si bien, pourquoi les autres pays européens ne le font pas ?
Alors... Là, j'ai envie de vous dire, ça me rappelle ce que me disaient mes parents quand j'étais petite. C'est pas parce que ton voisin fait quelque chose qu'il faut faire la même chose.
Non, mais il n'y a pas que des idiots parmi les pays
qui
nous entourent.
Non, bien sûr, mais ce qui se passe, c'est une très bonne question que vous posez. C'est la question de la concurrence fiscale en Europe. C'est-à-dire, à partir du moment où un des États baisse son imposition sur les personnes physiques ou sur les entreprises, les autres États ont tendance à faire la même chose.
Donc,
la priorité, le dumping fiscal. Et donc, la priorité aujourd'hui, c'est l'harmonisation fiscale dans l'Union européenne, et on en parle trop peu.
D'où Apple qui est en Irlande.
Apple qui est en Irlande parce que l'Irlande a un taux d'imposition sur les sociétés de 12,5%. Et moi, je pense qu'on ne doit pas rentrer dans cette course vers le moins-disant fiscal, parce que c'est aussi une course derrière sur le moins-disant social, parce que derrière, ça veut dire que les ressources publiques pour financer les services publics, elles sont en diminution. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans l'Union européenne.
Mais si je vous entends, il faut encore accroître la pression fiscale.
Non, il s'agirait de l'harmoniser. Donc ça ne veut pas nécessairement dire l'accroître, mais aujourd'hui, il y a une déformation. Quand un État donc, baisse son taux d'imposition, l'État d'à côté va faire la même chose. Mais ça ne veut pas dire que ces États-là bénéficient de cette baisse de l'impôt. Ça veut juste dire qu'ils auront moins de ressources pour financer les services publics.
Un mot de politique, vous êtes porte-parole du PS. Pour les européennes, vous prônez l'union de la gauche. Le Parisien annonce un rapprochement entre le PS et Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann notamment. Qui va conduire la liste? Est-ce que ce sera Olivier Faure, premier secrétaire, un autre socialiste ou ce ne sera pas un ou une socialiste?
Alors, je ne peux pas répondre à cette question pour le moment parce que l'annonce sera très certainement faite dans les prochains jours par les personnes citées. Mais je ne le sais pas nécessairement à ce stade parce que ça n'a pas été complètement décidé. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que nous sommes sur le point de partir en campagne sur des combats communs qui ont effectivement été élaborés avec Place Publique, entre autres. Et ces combats communs, ils ont vocation à dessiner une alternative à la mondialisation néolibérale en Europe.
Alors, le Parisien annonce que dans quelques jours, le PS va lancer une campagne commune d'affichage de tractage. Okay. Vous avez vu les affiches. Il y aura quoi sur les affiches? Vous avez lu les tracts. Qu'est-ce qu'il y aura?
Moi, j'espère qu'il y aura
Plus. Espérez pas. Je connais les délais d'impression. Vous les avez vus. Me dites pas que vous n'avez pas vu.
Oh, bah, ça s'imprime assez rapidement, des tracts.
Vous ne les avez pas vus?
Pour le moment, je n'ai pas encore vu ces tracts en question.
Que vous inspire le fait que pour la première fois de son histoire, le PS pourrait ne pas présenter de candidat à une élection majeure?
Écoutez, je comprends l'attachement d'un certain nombre de personnes, de socialistes, à avoir une tête de liste socialiste. Mais pour autant, je voudrais leur dire que ce n'est jamais arrivé depuis 79 que le PS tombe à 6%. Donc, on a besoin de se remettre en question. On a trop reproché au PS d'être un parti d'appareil refermé sur lui-même. Et aujourd'hui, on se reconstruira notamment en s'ouvrant, en renouvelant, en mettant en avant des profils nouveaux, en ayant une expérience autre que politique. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, notamment avec Place Publique, qui est très attachée au renouvellement.
Merci beaucoup, Gabrielle Siri. Vous êtes porte-parole du PS. Et j'informe les auditeurs que vous étiez en train de lire la réponse que vous m'avez faite. Vous êtes vraiment une porte-parole. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Un sport ou un art, la nouvelle a fait des vagues chez les initiés. Le breakdance, future discipline olympique aux JO de 2024, c'est fait. En tout cas, mon prochain invité s'en réjouit déjà. C'est lui qui a fait découvrir le breakdance en France dans son émission mythique Hip Hop. Sydney est avec nous dans un instant.
18h29, on retrouve Philippe Vandel pour la suite de votre grand journal du soir.
Et la suite, c'est le rappel des titres avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Aucune maison n'est menacée par les incendies qui sévissent en Haute-Corse, annonce du préfet. 1300 hectares de végétation sont partis en fumée depuis hier soir. La piste d'un impôt universel pour tous n'est pas à l'étude, annonce de Matignon après qu'il a été évoqué par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, dans les colonnes du JDD. Le pape François a clôturé la conférence épiscopale par un discours qui n'a pas convaincu. Le souverain pontife a comparé les abus sexuels sur mineurs à des sacrifices de rites païens. Des centaines de manifestants à Paris contre un cinquième mandat du président algérien Bouteflika. Une mobilisation en parallèle de celle qui s'est à nouveau déroulée aujourd'hui dans les rues d'Alger, malgré un important dispositif policier. La situation au Venezuela, l'aide humanitaire toujours bloquée, la communauté internationale accentue sa pression sur le régime de Maduro et une centaine de militaires et de policiers au Venezuela a déserté.
Merci beaucoup Sophie. À tout à l'heure, 19h, pour votre journal complet.
Europe 1.
La météo, avec vous Valérie Darmon, le printemps, c'est encore cette semaine.
Et oui, jusqu'à jeudi inclus, parce que de lundi à mercredi, c'est plein soleil. Les nuages bas et les brouillards seront localisés dans les plaines et les vallées, tôt le matin bien sûr. En montagne, c'est toujours le grand beau temps qui va dominer. Jeudi, ce sera une journée de transition avec davantage de nuages dans l'ouest et le nord de la France, et même quelques ondées de retour le long de la Manche. À partir de vendredi, l'anticyclone montre des signes de faiblesse. La perturbation, donc arrivée le jeudi par l'Atlantique, va traverser le pays vendredi, nous donnant un petit peu de pluie. Avant, en revanche, une vraie dégradation pluvieuse et venteuse annoncée pour le week-end prochain. Alors le matin, il fera frais, mais les gelées seront toujours limitées, exactement comme ce matin. Et puis l'après-midi, le temps va rester toujours doux, avec même un pic de douceur prévu mardi et mercredi, avec, écoutez bien, des maximales entre 19 et 24 degrés du nord au sud et des pointes à 25 en Aquitaine, des valeurs dignes d'un début d'été.
Waouh, le début d'été. Merci beaucoup, Valérie Darmon.
Bonne fin de journée avec Europe 1 et Philippe Vandel. Il est 18h31. On va maintenant parler d'un mythe, Philippe.
Oui, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le breakdance, c'est-à-dire la danse pratiquée autour du hip-hop, du rap, sera discipline olympique aux JO de Paris en 2024. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le pionnier de cette discipline en France, le présentateur de l'émission HIP sur TF1 en 84. Bonsoir, Sydney.
Bonsoir, Philippe.
Vous êtes un peu le papa de cette culture en France et pas seulement en 84. Votre émission émission était la première émission rap au monde. Séquence nostalgie, on va entendre le générique.
J'adore.
Merci. HIP, émission culte s'il en est, où ont notamment démarré Joey Starr, Passy, Tommy Bugsy, où on a vu la première fois en France Madonna. Comment, Sydney, avez-vous accueilli cette nouvelle, le breakdance, discipline olympique au JO de Paris en 2024?
J'ai accueilli ça avec beaucoup de, d'abord de fierté. J'étais d'abord très content de me dire, tiens, c'est une grande reconnaissance d'abord pour la culture. Et après, il y a le côté positif et on a peur du côté négatif parce que c'est mon bébé, quoi, un peu. C'est le bébé de tous les anciens danseurs et tous ces gens qui pratiquent cette culture.
C'est quoi le côté négatif?
On a toujours peur que ce soit récupéré. Je vois déjà des messages sur Facebook, des bons potes, je leur dis, mais n'ayez pas peur, je leur dis.
Récupéré par qui?
Récupéré par des gens qui vont, qui connaissent pas, qui sont pas nés dans cette culture et pour la faire évoluer, alors qu'il faut être très ouvert au contraire et se dire, tiens, voilà, on a cette chance et cette reconnaissance de participer aux Jeux Olympiques. On a aussi peur de se dire que c'est avant tout de la danse et que c'est pas du sport, alors...
Justement, voilà. S'il y a un grand débat dans le monde du hip-hop, est-ce que le breakdance c'est un sport ou un art?
C'est un art à part entière. Le breakdance fait partie de toute cette culture hip-hop. C'est un art de danser, déjà. La danse est un art, donc c'est un art.
Oui, mais alors comment on va établir un classement entre deux danseurs? Parce que c'est une compétition, les JO, il y a des médailles.
Oui, alors moi j'ai toujours fait un parallèle avec le patinage artistique, qui est aussi pour moi un art. Savoir glisser, en plus savoir danser, en plus il y a de la musique et tout. Je me suis dit, s'il y a du patinage artistique, pourquoi il n'y aurait pas de danse hip-hop?
Donc vous venez de changer d'avis en une seconde, donc c'est aussi un sport.
Voilà. C'est rentré dans une matrice de sport, mais finalement pour moi c'est de la danse.
Quelles seront les épreuves? Comment on va départager les candidats?
Alors je ne le sais pas, justement, on se demande, mais qui va l'organiser? On m'a pas appelé encore.
Est-ce qu'il y aura des figures libres, des figures imposées? Comment vous voyez la chose?
Moi, je voyais que déjà en 1984, je faisais déjà une figure imposée pour justement départager, équilibrer les danseurs.
Dans votre émission?
Oui, dans mon émission.
Il y avait déjà des battles?
Il y avait déjà des battles, bien sûr. C'était déjà, je l'appelais ça le défi. Je n'avais pas le droit d'employer des mots anglais. Maintenant, j'espère que ces gens qui vont organiser ces Jeux Olympiques vont appeler... pas seulement moi, mais appeler des gens qui connaissent, qui ont toutes ces références de battle depuis plus de 35 ans.
Alors il y a un paradoxe en hiatus, vous parliez du patinage artistique. Contrairement au patinage, le breakdance c'est une activité libre, underground, ça vient de la rue, chacun danse comme il veut, chacun s'affranchit des règles. Comment on va faire pour établir des règles?
On va pouvoir les établir. On établit déjà des comptes de points quand on fait des battles. C'est très précis sur la musicalité, sur le style du danseur, sur l'élégance, sur sa... ces possibilités de faire des phases de danse. Donc on va pouvoir justement équilibrer ça. On le fait déjà dans les battles. Pourquoi ce ne serait pas aux Jeux Olympiques?
Parce que vous dites qu'en même temps, il y a des dans le milieu de breakdance, il y a des profs de danse, plutôt il y a des danseurs qui sont réfractaires au fait de devenir professeur.
Exact.
Il dit ça ne peut pas s'apprendre, exact. Ça ne peut pas s'enseigner.
Oui, mais tout peut s'enseigner. Maintenant, on n'a pas envie que ça tombe justement dans un clivage complètement éducatif où on perd justement toutes ces notions de base. Le hip-hop vient de la rue, il doit le rester. Et on a bien des championnats de rock acrobatique, alors que le rock, c'était c'est la rue aussi.
À l'époque.
Voilà, à l'époque.
Mais maintenant, c'est encore la rue. Parce que la grosse différence avec le rock acrobatique, c'est que le hip-hop et le rap et le breakdance, c'est une culture qui vit.
Oui.
C'est pas une culture poussiéreuse où on ressort les vieux albums d'Elvis Presley.
Absolument.
Ça bouge tout le temps.
Bon, on sort des vieux albums de James Brown. Voilà. Non, ce qu'il faut penser, c'est que avant tout, le hip-hop doit rester intègre, doit rester underground comme il est. Ça l'empêche pas d'être au JO et de rester underground et de rester libre.
Et la drogue?
La drogue.
Je vais vous dire le sens de ma question. Oui. J'ai découvert la question en préparant cet entretien. Je vais citer, viens de moi, je vais m'abriter derrière un grand nom du milieu. Il s'appelle Riyad Ghani, vous le connaissez, directeur artistique de la compagnie Pokémon Crew. Oui. C'est la compagnie qui est à Lyon, où a longtemps travaillé Brahim Zebat, pour situer, c'était le danseur de Madonna. Riyad s'est réjoui dans le monde, il dit ceci. Tout ce qui est lié à la drogue fait des dégâts dans le milieu du breakdance, dans les battles underground en particulier, avec un encadrement strict comme celui des Jeux Olympiques. J'espère que les danseurs de la nouvelle génération ne vont pas tomber dedans comme ceux de l'ancienne génération. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Absolument. Moi, j'ai toujours été contre et anti-drogue et tout. D'abord, je ne fume pas, je ne touche à rien. Et j'ai toujours dit que c'est un... On va pas considérer du tout que si ça devient une discipline sportive, on va dire entre guillemets, tout en restant de la danse, forcément, pour nous, la sobriété est très, très, très importante. Donc forcément, je partage cet argument. Et en plus, j'ai toujours dit, c'est un échappatoire pour tous ces jeunes des cités, des banlieues, de se mettre à danser. Et je vous ferai croire que pour le breakdance, il faut vraiment avoir une santé du tonnerre.
Ah, il faut travailler quand on les voit.
Voilà. Et quand on parle de drogue, on peut parler de drogue dans tous les domaines. Il n'y a pas que le hip-hop, il y a tout. dans tous les domaines et dans tous les milieux. Hein. Donc, voilà.
Et puis il y a aussi la question des tenues. Les athlètes vont avoir une tenue olympique. Comment ça va se passer? Ils vont être en bleu avec le numéro sur le ventre, comme pour la France?
J'espère que non. Moi, dans l'émission, je mettais déjà des numéros. Mais bon, ça, c'était en 84. On ne savait pas trop comment faire. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir avoir un look olympique qui représente justement le look des b-boys et le look de la culture hip-hop. Ça serait très, très bien.
Avec la casquette à l'envers comme à l'ancienne ou pas? Ça ne se fait plus, la casquette à l'envers.
Ça ne tient plus, les casquettes avec les power moves. Les figures de danse, on ne tient plus avec une casquette.
Sydney est dans la place, comme on dit, et vous êtes dans ce studio avec la casquette à l'endroit. Yes. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un peu le papa du hip-hop en France. Merci. Si je peux entendre HIP, HOP, je serais sûrement pas malheureux.
Yeah.
Je vais le faire comme ça.
Eh, vas-y.
HIP.
Yeah. Et dans un instant, notre invité média, c'est Cyril Ferraud. Il présente la carte au trésor. C'est assez dur pour faire la chose comme ça. Et puis aussi, on va parler média avec Renaud Revel. Je suis en totale improvisation. On va parler du mal-être chez les journalistes. A tout de suite. Et là non plus, on va pas vous laisser.
18h39, Philippe Vandel. C'est l'heure de notre page média.
Bonsoir Cyril Ferraud.
Bonsoir Philippe.
Comment vous présentez, figure montante de France 3, on dit ça, mais depuis le temps qu'on le dit, ça y est, vous êtes au pinacle. Vous présentez les jeux Slam et le dimanche, le Grand Slam. Personne n'y avait pensé sur France 3 sans quotidienne. Slam qui permet à France 3 d'être leader, toutes chaînes confondues, chaque après-midi. Mais là, vous revenez surtout pour la saison 2 de la nouvelle version de la carte au trésor. Ça sera mercredi, ce mercredi 27, vous serez dans le Lot, le 6 mars dans la Somme. Pourquoi je dis la saison 2 de la nouvelle version? Car c'est une émission mythique qui a été créé en 96 et que vous avez relancé, et ça marche.
Et ça marche super bien, puisqu'on a entre 2,4 millions et 2,5 millions de téléspectateurs sur les 4 premiers épisodes. On était aux alentours de 11% de part de marché, avec une concurrence qui est très très dure à chaque fois. Vraiment, on a des inédites séries américaines sur TF1, Esprit Criminel qui marche bien, Top Chef qui marche bien sur M6. Et puis on a essuyé aussi le lancement du Burger Quiz.
Ah oui, le mercredi.
Nous, qui a été un raz-de-marée aussi sur TMC. Donc on s'en est sorti, très bien sorti je trouve. Et comme quoi c'était une bonne idée de retourner.
Je veux dire pourquoi je vous crois. Une émission qui ne marche pas ne revient pas en deuxième saison.
Voilà,
donc
c'est
comme
ça.
Vous êtes là, je, sans
c'est
même connaître les
fonctionné.
Chiffres, je sais que ça marche. Alors racontez le principe du jeu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à il y a 20 ans.
On a repris vraiment les fondamentaux d'il y a 20 ans. La seule chose qui a évolué, c'est la façon de filmer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on filme en 16/9, à l'époque c'était en 4 tiers, on est en ultra haute définition, on filme avec une caméra Cineflex, une caméra de cinéma, qui est installée sous mon hélicoptère pour faire les prises de vue aériennes magnifiques qu'on propose dans l'émission. Et le concept n'a pas bougé. Un hélico rouge, un hélico bleu, avec une candidate rouge, un candidat bleu. Je leur propose des énigmes qu'ils doivent résoudre sans internet et sans téléphone portable.
Ah oui,
puisqu'à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça.
Ouais.
Donc ils ne peuvent compter que sur les gens qu'ils rencontrent.
Et sans GPS.
Et sans GPS.
Mais là,
vous aussi.
Un petit peu, parce que le pilote de l'hélico, il a un GPS.
Le
obligatoire.
Pilote de l'hélico, oui.
Mais il s'en sert
mais
pas.
Mais pas les candidats. Si, il s'en sert.
Ah
en
bon.
Revanche, ce sont les candidats qui, eux, lorsqu'ils descendent,
d'accord,
ne peuvent pas utiliser de GPS ou internet.
Alors ils descendent de l'hélico, et là, c'est comme dans Pékin Express, mais c'est vous, enfin plutôt, c'est la carte au trésor qui a inventé ça. Ils courent après des voitures pour arrêter les gens en disant « Est-ce que je peux monter ? Emmenez-moi quelque part. »
Exactement. Et en leur demandant, en leur montrant leur énigme et en essayant de faire décrypter l'énigme par les gens qui sont là-bas. Donc c'est génial parce qu'on ne peut compter que sur la connaissance des habitants de ces régions qui parfois ne connaissent pas en fait les pépites du patrimoine de leur coin.
Alors vous dites que la vraie vedette de l'émission, Cyril Ferraud, c'est l'hélicoptère. À l'antenne, on en voit deux. Moi, je pensais qu'il y en avait trois avec le vôtre. En fait, il y en a quatre.
Oui, et on a la régie aussi. On a un hélicoptère qui sert
en vol.
De régie.
Non, mais attendez, la régie, elle est en vol.
Oui, et de transmission, exactement. C'est-à-dire qu'il
pardon,
nous faut...
Pardon, mais il n'y avait pas plus économique?
Ah non, c'était impossible. On a tout essayé. Tout essayé. C'est-à-dire que pour avoir tout le temps la liaison radio entre l'hélico rouge, l'hélico bleu, le mien et le producteur et la script qui sont dans le quatrième hélico, on est obligé d'avoir cet hélico relais, on l'appelle le relais, qui transmet en fait et qui me connecte moi en live avec un coup le bleu, un coup le rouge en fonction de à qui j'ai envie de parler.
Ça serait pas bien d'avoir un cinquième hélico avec la coiffeuse et la maquilleuse?
J'ai pas de maquilleuse. Je fais tout comme un grand dans mon petit hélicoptère.
Alors il y a 4 ans, pendant le tournage de l'émission Dropped, un double accident d'hélicoptère avait fait 10 morts, dont Florence Artaud, dont Camille Muffat. Quelles précautions avez-vous prises cette fois?
Le tournage s'est fait. Alors déjà, là, nous, on ne tourne qu'en France. Ce qui s'est passé sur Dropped est dramatique, vraiment. Donc tout ce que je vais vous dire maintenant n'enlève rien à la douleur de toutes les familles qui ont vécu ça. On a construit la carte au trésor en collaboration avec la DGAC, qui est l'administration en France qui gère tous les
Direction
transports.
Direction Générale de l'Aviation Civile.
De l'Aviation Civile, exactement. Et on s'est engagé sur une bible, accrochez-vous bien, de 120 pages de conditions de sécurité qu'on doit remplir. Tout le monde vole évidemment avec les ceintures. On a des dispositifs très précis. Les candidats ont tous une formation de sécurité en hélico qui est extrêmement précise aussi. Et alors, je vous donne un exemple. Par exemple, alors je ne connais pas les 120 pages par cœur. Un truc très simple, on n'a pas le droit de voler à la même, au même étage.
À
on
la
doit
même
voler
attitude.
En étage, exactement.
D'accord.
C'est-à-dire que le bleu vole à une certaine hauteur, le rouge vole au-dessus, le mien au-dessus et le relais encore au-dessus. Ça
et
permet
hélicos,
de ne pas pouvoir se percuter.
Et les hélicos, par exemple, ne décollent pas et n'atterrissent pas en même temps.
Exactement. Ah oui, interdiction.
Alors, je me souviens que les écolos avaient souvent critiqué Ushuaïa l'émission de Nicolas Hulot, mais lui, il était tout seul. Là, vous êtes quatre hélicos. Pardon de dire ça, mais c'est quoi le bilan carbone de l'émission ?
Eh ben, on le compense. C'est-à-dire qu'on a pris l'engagement là, pour cette nouvelle saison de compenser entièrement les émissions carbone de nos quatre hélicoptères. Donc, on s'est associé à une association qui offre pour la reforestation voilà, de tout un tas d'endroits en France. Voilà, et on s'est engagé à compenser entièrement le bilan carbone de la carte Trésor.
On va parler du principe du jeu. Parfois, on se demande dans quelle mesure le jeu n'est pas arrangé. Moi, j'ai vu l'émission qui va passer dans deux semaines. C'est l'émission qui se passe dans la Somme.
Dans la baie de Somme.
La baie de Somme.
Parce que mercredi, ce sera le Lot, hein,
exactement.
On précise.
Voilà. Frédéric interroge un guide qui lui apprend qu'elle doit aller dans le village de Vignancourt. Le guide lui dit cela au moment pile où arrive l'autre candidat qui s'appelle Dimitri, qui entend tout. Et le gars, il est à un mètre, il n'entend rien. Il repose les mêmes questions au même guide. Vous arrangez le suspense,
non,
pas l'inverse.
Ah non, alors je vous jure que non, parce que je vois très bien de quel extrait vous parlez.
Oui,
ils sont dans une grotte, alors sans tout dévoiler aux téléspectateurs.
Mais dans une grotte, on s'entend bien.
Ils sont dans une grotte où ils doivent, c'était une énigme à rebond, ils devaient trouver une signature pour savoir où aller ensuite. Le guide, en fait, était avec Frédéric depuis le début, donc il avait commencé à lui expliquer tout un tas de trucs. Et quand Dimitri arrive, il arrive d'un couloir dans une grotte. Alors autant vous dire qu'il n'a pas la stéréo pour entendre tout ce que dit
le guide. Oui, mais il a quand même entendu le nom du village.
Oui, mais est-ce qu'il sait ce qu'il va chercher à Vignancourt ?
Non, mais déjà, une fois qu'on est à Vignancourt, on se débrouille, quoi.
Philippe, je pense que vous vous brossiez les dents pendant que vous regardiez l'épisode.
Pas du tout.
Vous n'avez pas tout compris.
Écoutez, j'étais extrêmement attentif. Et aussi à cette séquence. Et je peux dire que parfois, ça rigole bien. Et les téléspectateurs de France 3 vont être surpris. On va entendre un extrait. On est en cours de jeu. Frédéric, la candidate, monte dans l'hélicoptère. Et là, elle démarre une discussion avec Rodolphe, le pilote de l'hélico.
Bah, tu sais qu'il y a des châtiments si tu te trompes.
Ah, on n'en avait pas parlé de ça. Hein
ah non, on dit pas tout au début. Hein.
Ça n'a pas l'air de lui déplaire.
Et vous avez retenu ça ?
Bah, comme vous.
Frédéric qui est mère de famille.
Oui, non, mais comme vous.
Il y a un truc, en revanche, tout ça me permet de dire un truc.
Non, mais t'es pas mécontente de savoir qu'il allait y avoir des châtiments.
On est d'accord, mais je vous dis pas lesquels. Non, un truc important, c'est que...
C'est dommage, c'était ma question.
À l'époque, il y avait beaucoup d'aventures, mais il n'y avait pas beaucoup de sourires dans la carte au trésor. Il n'y avait pas beaucoup de rire. Moi, j'ai vraiment voulu apporter ça. D'ailleurs, je me marre beaucoup avec les candidats.
Ouais.
Les candidats se marrent avec moi, avec leurs pilotes. Il faut vraiment créer de l'humeur. Et vous verrez que l'épisode de mercredi, il est particulièrement drôle. Celui dans le Lot, puisqu'on va se balader à Rocamadour, Saint-Cyr-la-Popie, les vallées du Lot, du Célé, les châteaux perchés, etc. C'est le programme de mercredi à 21h.
Comme on dit, lot of fun. Vous présentez aussi Slam, le grand Slam, personne n'y avait pensé. Tout marche bien, les audiences sont au beau fixe.
Tout, alors c'est au-delà de marcher bien. C'est-à-dire que Slam, au bout de la, on va bientôt fêter la 10e saison, on est aux alentours de 14-15% de part de marché, ce qui est gigantesque.
Et alors, si je suis bien informé, vous avez un nouveau projet, un concours de chorale.
Le grand concours des chorales, exactement.
Ouais.
C'est la première fois que je vais présenter des variétés sur France 3, donc je suis très content. On va faire ça
d'ici... Ça peut être la première fois que vous allez vous planter ?
Peut-être, mais...
Parce que je vais le dire,
dites-moi.
En 2011, France 2 avait tenté un concours de chorale avec Alexandre Devoise aux commandes, il s'était planté. Et en 2009, TF1 avait mis à l'antenne la bataille des chorales avec Benjamin Castaldi. Il s'était planté.
Alors je vais vous répondre, je ne me souviens pas de 2009, je vais vous répondre sur Sing Off qui avait été lancé sur France 2. C'était des chorales qui chantaient a cappella. Donc il n'y avait absolument jamais de musiciens. Nous, on va avoir non seulement un orchestre pour accompagner ces chorales et on va avoir des artistes qui vont chanter avec ces chorales aussi. Donc le concept n'a absolument rien à voir vraiment avec ce qui a déjà été fait, en tout cas sur France Télévisions il y a quelques années.
D'accord, je ne veux pas vous porter le mauvais œil.
Non, Cyril Ferraud, parce que vous m'aimez, je
comment
le sais.
Mais moi, j'aime tous les gens que je reçois ici. La carte au trésor, sans aucun châtiment, mercredi 27 dans le Lot, puis mercredi 6 mars dans la Somme. Merci Cyril Ferraud.
Merci Philippe, toujours un plaisir.
18h47, vous êtes bien sur Europe 1, suite de notre page média avec vous Philippe Vandel et Eva Rock.
Chronique média de Renaud Revel comme chaque semaine. Bonsoir Renaud.
Bonsoir Philippe.
À l'heure où le mouvement des Gilets jaunes cristallise les critiques et de la défiance à l'égard des médias, un sondage dont vous avez eu la primeur Renaud, un sondage dresse un état psychologique alarmant des journalistes, une population partagée entre déprime et désenchantement, rien que ça.
Et oui, Philippe, cette profession a le moral en berne. La crise des Gilets jaunes, ajoutée au climat de défiance qui s'est accentué à leur égard au fil du temps, a atteint de plein fouet une corporation qui ne sait plus très bien où elle en est. Ce sondage réalisé par l'agence de communication indépendante Comcorp auprès d'un échantillon de quelques 600 cartes de presse dresse ainsi le portrait d'une profession déprimée et en crise qui s'estime à la fois dévaluée et mal aimée. Manque de moyens, de temps, de ressources, charge de travail qui explose, dégradation de leur image, rythme de production toujours plus élevé, méfait des réseaux sociaux avec des internautes sans déontologie ni éthique qui diffusent des informations non vérifiées. 42% des journalistes déclarent ne plus exercer leur métier tel qu'ils le voudraient. Et une majorité pointe du doigt les dérives d'une frange de la profession.
Vous pensez par exemple à la Ligue du LOL ?
Oui, tout à fait, Philippe. Ce petit groupe d'une trentaine de personnes, pour la plupart issues de nombreuses rédactions parisiennes, sévissant sur la toile et accusées de s'être livrées à du cyberharcèlement depuis 2009, en particulier sur Twitter, fait des ravages en termes d'image.
Avec des insultes sexistes, racistes, xénophobes et antisémites.
Tout à fait. C'est ainsi que 70% des journalistes interrogés dans le cadre de ce sondage estiment que le métier de journaliste s'est ainsi détérioré au fil du temps. Une grande majorité, 88%, estime que cette profession n'est plus valorisée par les Français.
On ne peut pas leur donner tort, il y avait un sondage plus ancien qui classait les deux professions qui avaient la plus mauvaise image, les journalistes et les prostituées.
Des journalistes pessimistes, pour 70% d'entre eux, quant à leur avenir, il est ainsi frappant de constater que seulement 32% des interrogés déclarent ne pas envisager changer de voie et de se réorienter professionnellement contre 40% qui rêveraient aujourd'hui de faire tout simplement autre chose. 17% à vous-même déjà exercer une autre activité.
Mais ça c'est aussi parce que le métier de journaliste est de moins en moins bien payé.
Et le mal est si profond qu'une majorité de nos confrères ne recommanderait même pas à un jeune de se lancer aujourd'hui dans les études de journalisme, dans cette carrière. Même si c'est le grand paradoxe de cette étude, une grande majorité, 74%, réaffirme que si le choix leur était donné aujourd'hui, ils referaient la même carrière. C'est là tout simplement la traduction d'un attachement viscéral à un métier dans lequel ils disent tous s'être lancés avec enthousiasme, mais qui est devenu pour beaucoup d'entre eux, avec les années et les critiques, source de désillusion.
Question Renaud, est-ce qu'il y a un type de média qui bénéficie d'une meilleure image ou alors d'une moins mauvaise image que la moyenne?
Oui, bien sûr, la presse écrite d'abord et la radio ensuite, ensemble, exécutée en revanche en race campagne, la télévision et Internet. Tout n'est pas perdu, rassurons-nous. D'ailleurs, lorsqu'on leur demande de définir ce qui les pousse à poursuivre leur métier, malgré ces constats bien noirs, les journalistes mettent en avant la quête de sens qui habite, disent-ils, ce job pas comme les autres et une mission d'information qu'ils estiment indispensable à la bonne marche de notre démocratie.
Merci beaucoup Renaud Revel et justement, vous et moi serons là la semaine prochaine.
À bientôt Philippe.
Europe 1.
Dans un instant, on retrouve Eva Rock pour son replay télé, exceptionnellement un dimanche. A tout de suite sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1, 18h54 et elle nous a rejoint, Philippe Bandel, c'est Eva Rock.
Bonsoir Eva Rock.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors une fois n'est pas coutume, nous sommes dimanche et on va vous entendre, mais c'est comme le samedi, et on peut voir grâce à vous, revoir surtout les programmes diffusés au cours de la semaine sur les différentes chaînes. Vous en avez retenu 3.
Et oui, et on débute avec un cinéaste malicieux, Claude Chabrol. C'est sa fille adoptive Cécile qui propose un portrait de l'homme qui a bien failli ne jamais voir le jour et elle nous dit pourquoi.
Paris en 1930. Madeleine Chabrol est enceinte de 3 mois et prend un bain chaud en compagnie de son mari Yves. Hélas, le chauffe-eau à gaz fuit et le jeune couple, au bord de l'asphyxie fatale, est sauvé par la bonne. Les médecins évoquent alors des lésions terriblement irréversibles, un risque de débilité mentale pour le bébé. On conseille vivement l'avortement. Madeleine, catholique plutôt fervente, refuse catégoriquement. Et c'est ainsi que le 24 juin 1930, Claude Chabrol pousse son premier cri.
Et dans cette famille de pharmaciens, le petit Claude aime observer les bourgeoises et les bourgeois. Nourri de lectures et de feuilletons radiophoniques, il va rapidement sécher les cours pour squatter les salles de la Cinémathèque et réaliser en 1958 son premier film, Le Beau Serge, début d'une longue filmographie avec son lot de chefs-d'œuvre, de films, de commandes et de navets aussi. C'est sa fille qui le raconte. Vous allez découvrir un être facétieux, un libre penseur, un anticonformiste, un amoureux fou du cinéma. Claude Chabrol, l'anticonformiste, c'est à voir sur arte.tv.
Et alors cette semaine, Eva, en reportage, vous a marqué.
Exactement Philippe, c'était jeudi soir dans Envoyé spécial, sujet édifiant sur une crise sanitaire qui a fait 300 000 morts aux États-Unis en moins de 20 ans, des overdoses. Overdoses provoquées par une addiction aux opioïdes. Ce sont des médicaments prescrits pour des douleurs chroniques et qui provoquent chez les patients un état de dépendance. Écoutez un des témoignages recueillis par le journaliste.
La première fois que je suis allé voir le médecin spécialiste de la douleur, il m'a donné 480 pilules antidouleurs. Juste pour un mois. Mais rapidement, ça n'a pas suffi. J'ai commencé à en prendre de plus en plus et très vite, je suis devenu accro aux pilules. La sensation de manque, quand vous ne les avez plus, c'est insupportable. Parfois, on voudrait juste être mort.
Images de personnes décédées par overdose dans la rue ou dans leur voiture, témoignages glaçants des policiers, des victimes, des avocats, alors pas des laboratoires ni des médecins qui ont refusé de répondre, permettent d'établir une enquête solide et complète sur ce sujet, des morts sur ordonnance qui font des dégâts sociaux parce que les Américains s'endettent pour pouvoir acheter ces antidouleurs et des dégâts surtout auprès des enfants qui naissent en ayant besoin d'être sevrés. Documentaire effrayant et qui, je l'espère, servira aussi d'alerte pour la France qui n'est pas épargnée par ce problème sanitaire. C'est à revoir sur France.tv.
Et puis on termine avec un sourire.
Oui, grâce à C8 qui diffusait mercredi un nouveau numéro d'Au Tableau. Alors le concept est simple de cette émission, une personnalité politique ou un artiste est interviewé par des enfants. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Christian Estrosi, le maire de Nice se sont pliés à l'exercice, tout comme Cadmerade, avec des moments sérieux, notamment quand le comédien évoque ses origines ou la crise des gilets jaunes. Et puis des moments plus drôles, les enfants lui demandent de résoudre un exercice de science. Cadmerade découvre alors l'énoncé.
D'où vient ? Ah, les enfoirés ! D'où vient la calvitie ? Alors la calvitie, je vous situe. Alors donc ici, nous avons l'Angleterre, là il y a la France, et la calvitie, c'est une petite île qui se trouve juste là, où il n'y a ni arbre, ni pelouse, il n'y a rien. On ne roule qu'en vélo, c'est écologique à mort, les toilettes sont sèches, bon bref, on fait caca dans l'herbe. D'ailleurs, dans l'herbe, il n'y a pas d'herbe, donc on fait caca dans le sable. Voilà la calvitie.
Une émission rafraîchissante qui permet aux invités d'oublier un peu les éléments de langage et les codes de la promotion. Voilà Philippe pour cette semaine. Mais par ailleurs, au regard de l'actualité, France 5 bouscule sa programmation ce soir en proposant une série de documentaires remarquables que je vous recommande vivement. C'est intitulé « Pourquoi nous détestent-ils, nous, les Juifs, Noirs, Arabes ?» En fait, il y a trois films qui ont déjà été diffusés sur Planète Plus et qui sont incarnés par Alexandre Amiel, Lucien Jean-Baptiste, le comédien et réalisateur, et Amel Chabi. Chacun tente en fait de démonter les clichés racistes afin de mieux les questionner. Avec cette programmation, le service public participe à la lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Et c'est à voir à partir de 20h50 sur France 5.
Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine.
Volontiers.
Le samedi.
Le samedi.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h de Sophie Tussaud. À tout de suite sur Europe 1.
18h, 20h. Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez pour ce 18-20, ce week-end se tient le Carnaval de Nice, dont la principale nouveauté est d'ordre policier. La ville teste pendant la durée du carnaval une technologie de reconnaissance faciale via des caméras pilotées par intelligence artificielle. Pour quel bienfait et pour quel danger pour nos libertés ? Réponse avec le directeur conformité de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Il sera avec nous à 19h15. Et puis, dans la dernière demi-heure, un débat avec l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage, Hélène Risser de Public Sénat et Mickaël Darmon de la rédaction politique d'Europe 1. Au menu, la proposition de la ministre de la Cohésion des Territoires de faire payer à tous l'impôt sur le revenu, une mesure juste, démagogique ou carrément une erreur de communication. Et puis on va également dresser un premier bilan du salon de l'agriculture avec notamment les belles envolées écologiques, écologistes du président Macron. Est-il sincère ou pas, notamment sur le glyphosate, sans oublier les lobbies et la PAC qui posent problème. Bref, on a des choses à se dire.
Et oui, n'hésitez pas à réagir à l'actu de ce dimanche sur europe1.fr ou encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 19h, merci de nous écouter et bonne fin de week-end. Le journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Le printemps avant l'heure sur toute la France, nous irons dans le nord du pays où les Lillois n'ont pas boudé leur plaisir. D'importants feux sur l'île de Beauté, des incendies difficiles à maîtriser en raison du vent violent, nous entendrons le préfet de Haute-Corse. La déception des victimes d'abus sexuels par des hommes d'église, le discours du pape en clôture de la conférence épiscopale n'a pas convaincu. Et puis le salon de l'agriculture, l'occasion des concours d'animaux, Europe 1 a assisté aujourd'hui à celui de la vache charolaise.
Europe 1.
Et on commence par une belle nouvelle, grand beau temps sur toute la France.
Ah oui, ça fait un moment que ça dure, ça fait du bien, on s'habille moins chaudement, on déjeune en terrasse. À Lille, ce week-end ensoleillé a coïncidé avec le dernier des vacances d'hiver, Kevin Tuillier.
Effectivement, on a comme l'impression que les Lillois n'attendaient que ça. Après la grisaille et la neige de ce début d'année, le retour du soleil fait le bonheur de ces trois amis nordistes qui en profitent pour faire du lèche-vitrine.
Moi, ça m'a semblé long. On pouvait moins sortir, il faisait froid, il y avait de la neige, puis ça glissait. Là, ben, il fait beau, donc ça va mieux.
Là, on vient du resto.
On s'embête pas, nous, vous savez.
Les terrasses des bars et des restaurants sur la grande place de Lille sont bondées, la chaise tournée en direction du soleil, lunettes sur le nez, vêtues d'un simple t-shirt et d'un jean. Anne essaye d'en profiter un maximum.
C'est agréable. On revit. Il fait plus clair, les journées elles rallongent, donc c'est agréable. Ça donne envie de se promener, d'aller en terrasse. De toute façon, le soleil, c'est la vie. Hein.
Mais certains n'osent pas encore enlever le manteau et l'écharpe malgré les 15 degrés au thermomètre cet après-midi. Pour ce couple, ce n'est pas encore le printemps.
Ouais, ça reste frais. Hein. Au soleil, on est bien, mais à l'ombre, c'est plus frais. Et comme on dit, l'hiver n'est pas fini. Hein. On a vu des mois de mars enneigés. Hein. Les gens vont beaucoup trop vite. Là. On voit en short tout ça. Bon, enfin, je veux bien, faut pas les trouver.
Alors si ce n'est pas encore le printemps, ça y ressemble clairement et ça va continuer. Le soleil devrait briller au-dessus de la région, au moins jusqu'à mercredi.
Et Kevin Tullier, correspondant dans le Nord pour Europe 1. Et le beau temps, malheureusement synonyme d'incendie en Haute-Corse. 20 départs de feu ont été recensés hier soir, notamment dans la région de Balagne. Aujourd'hui, 3 Canadair et un Trekker sont venus en renfort. Les feux sont renforcés par un vent violent et ne sont toujours pas maîtrisés, comme nous l'explique le préfet de Haute-Corse, Gérard Gavory.
On a 1350 environ hectares qui ont été parcourus, donc sur Calenzane, hein, je parle de, c'est l'incendie qui nous préoccupe le plus ici en Haute-Corse. Donc nous avons 2 Canadair qui interviennent pour tenter de maîtriser cet incendie qui, je le répète, ne menace aucune habitation. On a 150 sapeurs-pompiers sur le terrain, hein, donc composé à la fois de pompiers du service d'incendie et de secours de Haute-Corse, mais aussi de renforts venant de l'Union de sécurité civile de Corté, ici en Haute-Corse. Et donc, non, il n'est pas encore maîtrisé, donc il y a encore toujours beaucoup de vent, donc ce qui complique bien évidemment l'intervention des moyens aériens.
Le préfet de Haute-Corse interrogé par Pauline Jacquot pour Europe 1.
Matignon ferme la porte à un impôt sur le revenu pour tous.
La piste n'est pas à l'étude. Une précision après que la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, a évoqué cette possibilité dans les colonnes du JDD. Aujourd'hui, moins d'un ménage sur deux paye l'impôt sur le revenu en France. Pour Gilles Carrez, député Les Républicains, ancien président de la Commission des Finances de l'Assemblée, la symbolique d'une contribution fiscale de chacun pour le pays est essentielle.
La responsabilité fiscale, même si elle est réduite à quelques dizaines d'euros, elle fait partie du lien de citoyenneté. Donc moi, je dirais volontiers à Mme Gourault que je comprends sa proposition, mais si elle veut être cohérente avec elle-même, alors vraiment qu'elle fasse très attention au problème que va poser la suppression de la taxe d'habitation. Si certains de nos concitoyens ont l'impression que tout est gratuit parce qu'ils ne payent pas d'impôts, eh bien, ils ont un comportement qui n'est plus responsable. Et c'est très difficile de leur faire comprendre que les services publics, ça a un coût, que ça doit être respecté. Et donc, il faut faire très attention à ça.
Le député Gilles Carrez répondait à Adrien Beck pour Europe 1.
Le discours du pape en clôture de la conférence épiscopale au Vatican a déçu.
Dans un discours, le souverain pontife a comparé les abus sexuels sur mineurs par des hommes d'église à des sacrifices humains, des rites païens. Il a condamné, mais n'est pas entré dans le vif pratique du sujet. Un blabla pastoral pour Jean-Marie Furbringer, une victime suisse présente sur la place Saint-Pierre.
Honnêtement, c'est décevant. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas non plus que ce serait le grand soir et que tout allait changer. Mais je trouve que c'est presque un recul par rapport à d'autres discours. Mais ce qui, pour nous, est finalement vexant, c'est le fait de... Nous, on est là, et il me semblait que le sommet, c'était pour parler des abus sexuels commis par des prêtres. Et finalement, le texte noie le poisson en parlant de plein d'autres problèmes, de la pornographie sur Internet, du tourisme sexuel, choses comme ça, qui sont des problèmes graves. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas des problèmes graves. Il a aussi le droit d'en parler. Mais enfin, on s'attendait quand même à la fin de cette semaine qu'il pourrait adresser des paroles fortes, intéressantes, peut-être encourageantes pour ceux qui ont encore un petit espoir que l'Église peut faire quelque chose. Et puis malheureusement, ce n'est pas le cas.
Jean-Marie Furbringer au micro Europe 1 de Virginie Riva. Un calme relatif aujourd'hui à la frontière entre le Venezuela et la Colombie au lendemain des violents affrontements pour le passage de l'aide humanitaire. Des événements condamnés par la communauté internationale. Pour Washington, les jours du régime Maduro au Venezuela sont comptés. En parallèle, c'est à présent une centaine de militaires et de policiers vénézuéliens qui ont déserté.
matin.
L'hommage de Madrid aux exilés en France de la dictature franquiste et les concours d'animaux au salon de l'agriculture. La suite du journal dans un instant sur Europe 1.
Il est 19h08, la suite du journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Et la visite est historique.
Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a rendu hommage aux exilés de 1939 en France en raison de la guerre civile et de la dictature de Franco. Il s'est rendu à Montauban, puis à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, un moment fort que vous avez suivi pour Europe 1, Henri de Laguérie.
Oui, après un hommage au dernier président républicain mort en exil à Montauban, Pedro Sanchez est allé dans le petit cimetière de Collioure pour fleurir la tombe du poète Antonio Machado. Comme lui, il y a 80 ans, des centaines de milliers d'Espagnols se sont réfugiés en France après la victoire des franquistes. Beaucoup ont été parqués dans un camp entouré de fils barbelés sur la plage d'Argelès lors d'un hiver 39 particulièrement glacial. Et c'est là, sur le sable et aujourd'hui sous un soleil éclatant, que Pedro Sanchez a salué leur mémoire.
De nombreuses années se sont écoulées depuis qu'ils ont dû quitter l'Espagne. Nous aurions dû leur demander pardon plus tôt pour cette infamie.
Dans le public, des descendants de réfugiés ont les larmes aux yeux. Jamais un chef de gouvernement espagnol n'était venu saluer la mémoire de ces exilés. Parmi eux, le chanteur Paco Ibáñez.
C'est très fort.
Vous êtes ému, vous, personnellement ?
Eh oui, beaucoup, oui. Beaucoup, parce que mon père, il était ici à Argelès. Hein. C'est-à-dire, c'est incroyable qu'il a fallu attendre tant d'années pour rendre un hommage à tous ces Espagnols qui ont combattu et qui ont laissé leur vie pour défendre un idéal. Voilà.
Mais cette visite aura aussi été marquée par des manifestations d'indépendantistes catalans qui ont tenté de boycotter par leurs sifflets et leurs cris cette cérémonie d'hommage.
Henri de Laguérie à Collioure pour Europe 1. Des centaines de personnes ont manifesté cet après-midi à Paris contre la candidature du président algérien Bouteflika à un cinquième mandat. Une mobilisation en écho à celle qui se tenait cet après-midi dans les rues d'Alger malgré un important dispositif policier, malgré l'interdiction de manifester dans la ville depuis 18 ans.
Et on prend à présent la direction du Salon de l'agriculture à Paris.
Vos vaches, cochons, couvées et l'occasion pour les exposants de gagner un prix lors des concours. François Geffrier, vous avez assisté aujourd'hui à celui du stand de la Charolaise.
C'est comme dans un stade. Le terrain, un rectangle de 50 mètres sur 20, couvert de copeaux de paille, plus confortable pour le sabot des vaches. Il y a des caméras, des écrans géants, des centaines de spectateurs dans des gradins et les vaches se succèdent, marchant nonchalamment avec leurs cloches vers le podium. Et comme les grands champions, les bovins qui défilent peuvent ressentir la pression de la compétition. Alors chacun a ses petits secrets pour rassurer les candidates.
Beaucoup de plantes, là j'ai un bidon, là c'est que des plantes. Giroflée, thym, gentiane. Des plantes apéritives, je dirais.
Elle ressent nos émotions, tout ça, la vache. Hein, je veux dire, elle est pas bête. Quand on est sur le ring, on dégage du stress. La vache, elle le sent, elle marche moins bien.
Moi j'ai l'habitude de faire... Quand je fais ça, la vache, elle tend l'oreille, elle sait que je suis là.
Sans oublier le jury.
Il faut beaucoup regarder le juge, lui mettre une grosse pression.
Le concours des taureaux charolais vient de se terminer ce soir. Laetitia Bozard, propriétaire de la bête victorieuse.
Il a 6 ans aujourd'hui.
Il s'appelle comment ?
Impoli. Et donc aujourd'hui, c'est aussi le taureau le plus lourd du salon, puisqu'il fait 1685 kilos.
Au-delà du prestige, gagner le concours général agricole, c'est la possibilité de vendre bien plus cher l'animal ou sa génétique. Le jeune Impoli aura donc sûrement beaucoup d'enfants.
François Geffrier au Salon de l'agriculture pour Europe 1.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud qui n'est pas impoli. Merci beaucoup Sophie.
Europe 1, 19h11.
La météo avec vous Valérie Darmon. Demain, le soleil brille tout aussi facilement que ces derniers jours.
Et oui, de la Bretagne au Poitou et du Limousin au Pays Basque. Alors vous allez vous réveiller sous quelques nuages bas et quelques brouillards. Mais le soleil va l'emporter évidemment dès le début de la matinée aux alentours de 10-11 heures du matin. Partout ailleurs, dès le matin, dès son lever, vers 7h45 à peu près selon les régions, le soleil va briller après la dissipation des brouillards dans le Val-de-Saône. Sous des températures et quelques gelées, des Ardennes aux vallées alpines et en Auvergne jusqu'en Normandie, les minimales oscilleront entre moins 3 à Charleville et 6 degrés à Biarritz. Et l'après-midi, les valeurs qui gagnent encore quelques degrés, entre 13 à Dunkerque et 21 à Mont-de-Marsan de nouveau. Et ce n'est pas fini parce que mardi, Météo France annonce un pic de douceur. En attendant, demain après-midi, il fera 16 degrés à Angers, à Lille et à Clermont-Ferrand. À Paris, 17 degrés, comme à Tours, à Reims ou à Nancy, 18 à Marseille, Angoulême et Bordeaux. Et enfin 19 à Nîmes et Albi.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
C'est avec vous Julien Froment, le journal des sports, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va commencer, on va presque terminer cette 26e journée oui. de Ligue 1 parce qu'il y a un match ce soir. C'est fini au Roazhon Park entre Rennes et Marseille.
Oui, Rennes avait bien débuté mais l'OM est revenu dans la partie. Une histoire de coup de tête, Stéphane Beignet.
Effectivement, et série en cours pour l'Olympique de Marseille qui a pris un point au Roison Park face aux héros de Séville, le Stade Rennais Football Club. Et pourtant, ce sont les Bretons qui ont ouvert le score sur corner à la 7e minute. Corner de Del Castillo, tête de André. Et pourtant, le ballon a touché le crâne de Balotelli, mais Mandanda ne pourra stopper le ballon. Et c'est également sur corner à la 56e que le club phocéen va égaliser de la tête par Valère Germain. Match indécis. L'OM aura deux belles occasions, une tête de Thauvin et une frappe de Germain. Et le Stade Rennais dans le temps additionnel, lorsque Hunou, qui filait seul au but, sera bousculé par Amavi, le défenseur marseillais, qui écopera d'ailleurs un rouge direct. Marseille est ce soir 5e à 2 points de l'AS Saint-Etienne.
Merci Stéphane. Et l'après-midi a été riche en buts, notamment du côté du Stade de la Mosson. Victoire 4-2 de Reims à Montpellier. Ça faisait 44 ans que Reims n'avait pas marqué 4 buts à l'extérieur. Les Rémois. Voilà, exactement, quasiment. Les Rémois se rapprochent de l'Europe. Nantes a battu Bordeaux 1-0. Nul entre Toulouse et Caen, un partout, grâce à un superbe coup franc de Max-Alain Gradel dans le temps additionnel. La mauvaise opération pour les Normands dans l'optique du maintien. Ce soir, le match à suivre sur Europe 1, ça sera entre Monaco et l'Olympique Lyonnais au Stade Louis II. Et juste avant le match, on vous en avait déjà parlé dans le précédent JDS, un nouveau rendez-vous sur Europe 1, le studio des légendes, 20h-21h. Guirou, Charles Bietri, encore Charles Villeneuve débattront de l'actualité football en compagnie de Lionel Rousseau. Et puis un mot de football anglais. Match nul entre Liverpool et Manchester United, 0-0. Et une pelletée de blessés du côté des Red Devils à 10 jours de jouer le Paris Saint-Germain en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Enfin, en finale de la Coupe de la Ligue, pour le moment, il y a 0-0 entre Manchester City et Chelsea. Il reste une poignée de minutes à jouer.
Rugby maintenant, le tournoi des prochains adversaires du 15 de France en est sorti en Italie.
Oui, au tournoi destination. Hein, les prochains adversaires des Bleus, donc l'Irlande a battu assez difficilement l'Italie, 26-16. Les Bleus retrouveront le 15 du trèfle le 10 mars prochain à l'Aviva Stadium. D'ici là, c'est une semaine de repos pour les Bleus. Période de relâche diversement appréciée, Simon Rubin.
Oui, et c'est vrai que cette petite coupure n'est pas du goût de tout le monde. Alors l'avantage, évidemment, c'est que les joueurs vont pouvoir souffler, se ressourcer psychologiquement surtout. Mais après la victoire sur l'Écosse, dans le staff, on aurait plutôt apprécié pouvoir enchaîner sur une nouvelle semaine de travail, rester dans le bain, dans la bonne dynamique de cette victoire. Alors là, tous les joueurs rentrent donc dans leur club, ils vont continuer l'entraînement. Ils ont d'ailleurs reçu tous quelques consignes de la part des entraîneurs du 15 de France. Retour à Marcoussis vendredi prochain, a priori avec un groupe similaire, même si dans l'encadrement du 15 de France, on ne s'interdit pas d'apporter quelques changements. En vue donc du prochain grand match en Irlande, ce sera dimanche 10 mars.
Merci Simon Rubin, spécialiste rugby pour Europe 1. Et puis, on en a l'habitude pendant le tournoi Destination, il y a une journée de top 14. Castres a dominé le Racing 18-9 et Lyon s'offre clairement 19-13.
Dans le reste de l'actualité sportive, trois mots, cyclisme, handball, basket.
Et là, ils sont dans l'ordre les mots.
Oui.
Le tour du Haut-Var, c'est du cyclisme. Victoire du Français Thibaut Pinot qui fait coup double en remportant la dernière étape et donc le général. Il devance Romain Bardet. En handball, le Paris Saint-Germain ne faiblit pas, déjà assuré de disputer les quarts de finale. Le club parisien conforte sa première place au classement. Succès 36-32 contre les Slovènes de Celje. Enfin, l'équipe de France de basket finit sa campagne de qualification pour le Mondial 2019 en beauté. Victoire 82-66 contre la République tchèque. Les Bleus qui joueront donc ce Mondial en septembre prochain du côté de Shenzhen. C'est en Chine.
C'était le Journal des Sports. Merci beaucoup, Julien Froment. Europe 1. Reconnaître une personne dans la rue avec l'aide d'une photo vieille de 20 ans, est-ce de la science-fiction ? Pas du tout. Les caméras de la ville de Nice expérimentent ces jours-ci la reconnaissance faciale avec le risque de sacrifier nos libertés individuelles sur l'autel de la sécurité. Thomas Dautieux surveille toutes ces questions à la CNIL. Il est avec nous dans un instant.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 19h17 et maintenant Philippe Vandel, dans votre entretien, il est question de liberté et de sécurité.
Ce week-end se tient le 35e carnaval de Nice, dont la principale nouveauté se tient à l'extérieur des chars. Le maire et la mairie ont décidé de tester pendant la durée du carnaval une technologie de reconnaissance faciale via des caméras pilotées par une intelligence artificielle. Est-ce légal ? On se doute que oui, mais comme le reprochent déjà certains, n'est-on pas en train de sacrifier nos libertés individuelles sur l'autel de la sécurité ? Bonsoir Thomas Dautieux.
Bonsoir.
Vous êtes directeur conformité à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. D'abord, d'un mot, votre rôle consiste en quoi ? Conformité de qui à quoi ?
Alors, c'est la direction qui est chargée d'aider les entreprises, qu'ils soient publiques ou privées, à mettre en place des dispositifs par rapport à la loi informatique et liberté. Donc, on les accompagne, on les aide à être en conformité.
Petit point de vocabulaire, la ville de Nice va faire cette expérience auprès de 1000 volontaires, à l'exclusion de tous les autres. Elle fera ensuite un rapport à la CNIL. Question pour les néophytes, Que signifie « à l'exclusion de tous les autres » ?
Ça veut dire en fait que ne seront filmés et, le cas échéant, reconnus que les personnes volontaires. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Très concrètement, il y aura deux files. Une file des personnes qui ont accepté de faire partie de l'expérimentation et tous les autres.
Mais ensuite, toutes les personnes se retrouvent dans le même endroit, le même espace. Avec
et ben non, justement.
Ah bon ?
Puisque ben non, ne seront filmées que les personnes qui ont accepté de faire partie de l'expérimentation et les autres ne seront pas filmées. Donc, il y aura deux zones séparées.
J'avais compris que les caméras savaient reconnaître ou non si la personne avait dit oui. Il y aura donc deux espaces différents.
Il y aura deux espaces distincts. Donc, tout le monde, toutes les personnes qui auront consenti seront filmées. Et parmi ces personnes, certaines d'entre elles seront ou non reconnues. C'est l'objet de l'expérimentation.
La mairie de Nice vous a-t-elle prévenu en temps et en heure et a-t-elle recueilli votre autorisation, enfin celle de la CNIL, comme elle le dit ?
Alors, elle nous a en effet informé. Le problème, c'est qu'elle nous a informé quelques jours seulement avant le début de l'expérimentation pour un dispositif innovant, innovant juridiquement et innovant techniquement. Donc, c'est vrai qu'en quelques jours, on a eu du mal à faire l'ensemble, l'analyse de l'ensemble des problématiques. On a fait un premier retour à la commune de Nice, mais c'est vrai que si on avait eu un peu plus de temps, ça aurait été plus simple.
En gros, si j'ai bien compris, ils vous ont mis un peu au pied du mur.
Ils nous ont, en tous les cas, mis dans des délais un petit peu courts. Sur votre deuxième point, on n'a pas autorisé ce système, tout simplement parce que, juridiquement, nous n'avons pas ni la faculté de l'autoriser, ni la faculté de l'interdire. C'est un système qui n'est pas soumis à autorisation. Donc, la commune a pris ses responsabilités, prend ses responsabilités. Nous l'avons accompagné pour que son dispositif corresponde au mieux aux exigences légales, mais nous n'avons pas autorisé ce dispositif.
Je vais citer un communiqué officiel de la CNIL qui a rappelé que l'expérimentation de Nice ne saurait aller au-delà d'un simple test. Je cite « La mise en œuvre d'un tel dispositif à des fins sécuritaires serait soumise à l'intervention d'un décret en Conseil d'État ou d'une loi. Autrement dit, l'expérience, j'ai bien compris, ne va rien apporter sur le plan de la sécurité publique. »
C'est juste une expérience pour voir si l'algorithme est capable ou non de reconnaître les volontaires qui se seront préalablement enrôlés auprès de la commune dans la foule. Cette expérience ne vise qu'à ça. Elle ne vise pas à, le cas échéant, détecter des comportements frauduleux interdits. Ça, ce n'est pas dans le cadre de l'expérimentation.
Alors, la précision annoncée est absolument spectaculaire. Je vais citer Stéphane Loup, qui est directeur chez Confidentia, qui est l'entreprise d'intelligence artificielle qui gère l'opération. Je le cite. « On peut reconnaître une personne avec une photo vieille de 20 ans. Même chose si elle a des lunettes ou si elle s'est laissée pousser la barbe. Le taux de précision est supérieur à 95% dans un cadre d'environnement urbain avec des foules en mouvement. Vous croyez à ces chiffres ?»
Je ne sais pas. C'est bien pour ça qu'on a demandé à la mairie de nous adresser au bout de deux mois un bilan de l'expérimentation pour voir si en gros tout ça en valait la peine.
D'accord. Il faut deux mois pour faire un bilan ?
Bah, disons que le temps d'analyser les résultats des algorithmes, d'analyser les comportements de la population, oui. Mais en tous les cas, on demande d'être saisi dans un délai de deux mois.
Je souris parce que les gens qui font de l'informatique nous expliquent que les choses se font en un millionième de seconde. Donc s'il faut deux mois pour écrire un rapport, c'est que l'intelligence s'est un peu perdue en route.
Oui, on veut aussi un rapport qui détaille de manière juridique les conditions de mise en œuvre. Donc c'est pour ça qu'on veut quand même un rapport assez complet.
Sur le chiffre donné, 95% de taux de réussite, il y a une expérience qui avait été tentée, mais l'informatique fait des progrès considérables en quelques mois. C'était en 2017 au carnaval de Notting Hill. C'était des caméras reliées à de l'intelligence artificielle et ça donnait un résultat nul. Il y a eu 35 alertes et ce furent 35 fausses alertes. Alors maintenant, on va parler du fond. Que pensez-vous de la reconnaissance faciale utilisée par des caméras dans la rue ? Est-ce que c'est une privation future de liberté ?
Alors, je ne sais pas si c'est une privation future de liberté. Ce que je sais, c'est que ça pose des questions. La CNIL constate depuis un certain nombre d'années que la technologie se développe et les caméras permettent de faire de plus en plus de choses. Elles filment de manière de plus en plus précise, elles captent des sons, elles sont capables d'analyser des comportements qu'on pourrait considérer comme suspects, quelqu'un qui court, quelqu'un qui crie, on peut faire de la reconnaissance faciale. Toutes ces innovations technologiques montrent que notre cadre juridique actuel est dépassé. On est sur un système d'autorisation préfectorale qui, honnêtement, ne fonctionne plus très bien. Il faut donc repenser ce cadre et le repenser à l'aune des questions en termes de vie privée, en termes de liberté d'aller et venir, en termes de circulation. Et donc, on est une partie de cette réflexion et on appelle le législateur et d'une manière générale la société à s'en saisir et à y porter des réponses.
Alors, j'ai bien compris que ça peut être là parfois une privation de liberté, mais est-ce que ce n'est pas parfois nécessaire, si ça peut sauver des vies? Je rappelle que la ville de Nice a été victime d'un attentat, c'est le 14 juillet 2016, un terroriste dans un camion qui a tué 86 personnes et fait plus de 300 blessés. Est-ce que ce n'est pas un mal nécessaire? Pardon de vous poser la question abruptement.
Un mal. En tout cas, on ne peut pas nier que les technologies aident à résoudre des questions, des problématiques, des défis en termes de sécurité publique. C'est une évidence absolue. Après, il faut trouver le juste équilibre entre les bénéfices attendus et puis les sacrifices en termes de liberté qu'on est, est prêt à consentir.
Est-ce que c'est, vous employez le mot de sacrifice, est-ce que c'est réellement un sacrifice? Il y a déjà de la reconnaissance faciale dans les aéroports. Et à ce que je sache, ça pose de problèmes à quasiment personne.
Alors, tout dépend de ce qu'on entend. Il y a de la reconnaissance faciale, par exemple, pour ouvrir votre téléphone portable. Certains téléphones portables sont dotés de ce type de reconnaissance.
Non, mais le fait d'être filmé dans un aéroport et qu'on reconnaisse votre visage, ça pose de problème à personne ou est-ce que je me trompe?
Alors, c'est quand même extrêmement limité pour le contrôle aux frontières. Donc ça, c'est vraiment sous la l'égide de l'État. C'est très précisément encadré par les textes. C'est exactement ce qu'on appelle. On veut un encadrement législatif. C'est au Parlement de définir comment est-ce qu'on peut filmer les citoyens, notamment dans les espaces publics. Et c'est pas à toutes les communes de décider de manière peut-être désordonnée comment est-ce que tout ça doit être mis en œuvre.
Alors, il y a un projet en Île-de-France, la région parisienne. On parle de remplacer le pass Navigo dans le train et dans le métro par de la reconnaissance faciale. Et Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, s'est déclarée favorable à ce système. Elle dit « Il n'y a pas de raison qu'il y ait des degrés de protection différents entre les avions et les trains. Et le fait qu'un terroriste recherché puisse passer devant les caméras sans être empêché de prendre le métro me paraît une source d'insécurité. » Que répondez-vous à cet argument, vous-même en tant que citoyen ?
Je pense que toutes ces prises de position sont assez justifiées si on les prend isolément. Ouais. La difficulté est qu'on arrive dans une société globale où chacun sera filmé, surveillé, suivi, tracé. Et en termes de vidéo, de reconnaissance faciale, on est quand même dans l'approche ultime de la reconnaissance, puisque vous allez vous balader dans la rue et quelqu'un va vous reconnaître parce que vous êtes dans une base de données. Pourquoi pas à la limite ? Il faut juste que tout ça soit encadré par les textes et que ces textes fixent des lignes rouges en disant là c'est possible.
J'ai bien compris que les textes n'existent pas et que vous appelez de vos voeux une loi qui soit actualisée, puisque les textes datent du moment d'un temps où l'intelligence artificielle n'existait pas. Mais vous-même, en tant que citoyen, qu'en pensez-vous? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes confronté tous les jours à ces problématiques avec des gens qui vous écrivent, qui se plaignent auprès de la CNIL?
Tout à fait. On voit quand même qu'il y a une certaine sensibilité des personnes par rapport à ces questions. L'idée, ce n'est pas non plus de les habituer petit à petit à être de plus en plus surveillés. C'est vraiment une question sociétale. Il faut que la société s'en empare. Pas que le pouvoir juridique, pas que le pouvoir politique, tout le monde.
Un mot, est-ce que les caméras sur les lieux de travail qui vous filment en caméra cachée, c'est légal, illégal? Est-ce qu'elles ont ou non une valeur juridique? Est-ce que c'est une tolérance?
Alors, on peut être, le cas échéant, filmé sur son lieu de travail, mais c'est l'exception. On peut contrôler l'activité d'un salarié, ça c'est sûr. On peut contrôler sa productivité. Par contre, le filmer en permanence, c'est quelque chose qui a été jugé, notamment par la CNIL et les juridictions, comme étant excessif, puisqu'un salarié garde une partie de vie privée, quand bien même il serait sur son lieu de travail.
Mais en même temps, sans caméra cachée, jamais on n'aurait vu un infirmier de l'EHPAD maltraiter et insulter une vieille dame de 98 ans. Idem pour les traitements cruels infligés aux animaux dans les abattoirs. Et s'il fallait demander à chaque fois l'autorisation avant de filmer, Benalla serait encore en liberté.
Non, l'idée n'est pas de demander l'autorisation, l'idée est de prévenir le salarié qu'il est filmé et que celle-ci soit, que les personnes soient filmées pour une finalité légitime dont elles ont connaissance.
Il y a des caméras dans les couloirs de la CNIL ?
Il n'y en a pas dans les couloirs de la CNIL.
Bon, il y en a ici à la sortie des ascenseurs d'Europe 1. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle, Thomas Dautieu, vous êtes directeur conformité à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre débat du dimanche soir, faut-il assujettir tous les Français à l'impôt sur le revenu? Qui se cache derrière ce cafouillage au gouvernement? Et puis la PAC, les lobbies ou encore le glyphosate, les grandes annonces d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture étaient-elles sincères? À tout de suite sur Europe 1.
19h28, place à notre grand débat d'actu sur Europe 1 avec vous, Philippe Vandel, et vos invités. Hashtag Europe 1 sur Twitter si vous souhaitez réagir, bien sûr.
Avec Corinne Lepage. Bonsoir Corinne Lepage.
Bonsoir Philippe Vandel.
Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, présidente de CAP21. Hélène Risser, bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Public Sénat. L'émission s'appelle Hashtag. Et Mickaël Darmon, bonsoir.
Bonsoir.
De la rédaction politique d'Europe 1. On va commencer par la proposition de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, dans un entretien au JDD ce matin. Elle propose de faire payer à tous l'impôt sur le revenu. Je rappelle que seulement 47% des Français le payent, donc moins de la moitié des Français. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne idée, une fausse bonne idée, Hélène Risser?
une bonne idée de faire payer l'impôt sur le revenu à plus de monde ou une bonne idée d'en parler maintenant?
Il y avait une question dans la question. Voilà. Dites-le comme vous voulez.
Alors, c'est vrai que c'est un vieux débat et c'est vrai qu'avec cette crise des gilets jaunes, on sent bien qu'il y a toute une question autour de la citoyenneté qui se pose, un besoin d'une mesure symbolique. Et c'est vrai que, comme vous dites, la faible proportion, la minorité de Français qui paye l'impôt sur le revenu a l'impression de contribuer plus que les autres.
Une grosse minorité, 47%, on va dire que
oui,
c'est la moitié.
Mais je regardais les chiffres, vous voyez, avant de venir, 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des Français. Donc c'est vrai que ça crée chez eux un gros sentiment d'injustice. Cela dit, quand on regarde, et d'ailleurs c'est la réponse qu'a faite Édouard Philippe, hein, en disant, parce qu'il a tout de suite enterré la proposition en disant...
Il a dit sa proposition n'est pas à l'étude.
Oui, bah elle n'est pas à l'étude.
Mais ça ne veut pas dire non plus. Ça peut aussi être une sorte d'euphémise, une sorte de litote.
Moi, je comprends que ça veut dire qu'elle n'est pas à l'étude. Sous-entendu, elle ne sera pas forcément demain non plus. Mais enfin, on va laisser à Michaël Darmon expliquer ce qu'il en pense, comment il comprend les choses. Non, mais et cela dit, c'est vrai aussi que la CSG est un autre impôt sur le revenu et qu'on arrive quand même à un système complètement paradoxal où les gens qui payent l'impôt sur le revenu ont l'impression que c'est injuste et qu'ils sont les seuls à payer. Et les Français modestes qui payent la CSG ont l'impression qu'ils payent un impôt sur le revenu qui est injuste aussi. Donc en fait, on est dans un système où tout le monde a l'impression d'être face à une injustice.
Corinne Lepage.
Oui, comme Mme Rissière vient de le dire, c'est une vieille histoire hein, de dire c'est pas normal que même à 10 euros, il n'y ait pas tous les Français qui les payent. Sur le principe, oui, c'est vrai. Mais comme ma voisine l'a dit très justement, je ne suis pas sûre que ce soit le moment de poser la question. Et deuxièmement, on a quand même une fiscalité qui a beaucoup évolué, c'est-à-dire que tout ce qui devait être la fiscalité proportionnelle qui est destinée à assurer la justice fiscale est aujourd'hui beaucoup réduite, même si effectivement 10% des gens payent une très grosse partie de cette
70%.
IAPP, est une part réduite quand vous voyez notamment la TVA.
Que
tout le monde paye.
Riche ou pauvre.
La CSG aussi, tout le monde la paye. Voilà, donc si vous voulez, la question a quand même beaucoup évolué depuis que l'IRPP est devenu un impôt, non pas secondaire.
L'IRPP,
mais
c'est l'impôt sur le revenu.
Impôt sur le revenu des personnes physiques. Est devenu un impôt, je dirais, de moindre importance.
Michaël Darmon.
Déjà, ce serait paradoxal de sortir du grand débat qui a commencé par une crise fiscale en terminant par une augmentation d'impôts, fût-elle la plus symbolique qui soit. Ça, c'est étonnant. On a l'impression quand même qu'on est rentré un petit peu dans, en ce moment, la République des ballons d'essai. Hein. C'est-à-dire que le rituel est parfaitement rodé. On le voit sur beaucoup de sujets, mais en particulier sur la fiscalité. Chaque semaine, une idée... une polémique ou en tout cas une réaction et un enterrement de première classe. Alors, immédiatement au niveau d'Élysée ou de Matignon.
Justement, ça m'intéresse beaucoup que vous parliez de ça parce que j'avais prévu cette question à votre intention, Michaël Darmon. Je vais vous demander, est-ce que vous confirmez cette info que j'ai lue, je ne sais plus où, il y a quelques jours, qui dit que le président Macron a autorisé ses ministres à lancer des ballons d'essai dans l'opinion?
Oui, mais très certainement.
Parce que j'avais lu, vous allez comprendre le sens de ma question, j'avais lu l'information inverse il y a un mois où il avait interdit à ses ministres de lancer des ballons d'essai.
Cette semaine, un ministre qui n'est pas non plus anodin dans le gouvernement me disait, au fond, ce grand débat, il a un peu bon dos parce que ça permet à tout le monde de lancer ses idées, de faire sur la grande lessiveuse et puis ensuite eh bien, de les trier. Et une fois qu'on a estampillé non, non, non et oui, non, eh bien, on va voir un peu comment on va avancer. C'est un petit peu le moment auquel on assiste. Ça raconte aussi qu'on a une forme, je dirais, de désarroi de l'équipe gouvernementale qui ne sait pas du tout où elle habite. Elle ne sait pas du tout comment ça se termine, ce grand débat. On ne sait pas s'il y a un remaniement. On ne sait pas s'ils existent encore dans 3 mois, dans 2 mois. Donc, quelque part, tout le monde doit un petit peu aussi exister et y aller de sa proposition, et souvent, bien entendu, sur des sujets qui peuvent être justement très entendus et faire réagir. Il est très clair que Emmanuel Macron a dit « je ne veux pas entendre parler de hausse d'impôts ». Le travail sur les niches fiscales qu'avait lancé le, entre guillemets, citoyen Darmanin a été également mis également au placard, même s'il y a un travail, je dirais, plus fin, plus peut-être plus en dentelle, qui pourrait être fait sur les niches fiscales, par exemple, qui sont souvent utiles pour certains et peut-être un petit peu trop avantageuses pour d'autres. Donc, on voit bien que, de toute façon, on ne pourra pas échapper à un débat, ou en tout cas, surtout à des résultats et des décisions sur la fiscalité, au sortir de ce débat national, parce que les Gilets jaunes, ça a commencé par une révolte contre une taxe.
Et d'un mot, à votre avis, rapidement, vous pensez quoi du bien fondé de faire payer, dès le premier centime gagné, une toute petite part d'impôt sur le revenu?
Vous vous souvenez du scandale sur les 5 euros sur les APL?
Bien sûr.
Et maintenant, on voudrait éventuellement aller sur 10 ou 15 euros pour les personnes les plus faibles. Donc je crois que c'est une très mauvaise idée.
C'est pas le moment.
Je vais donner une information. L'impôt n'est rentable, le seuil d'imposition est rentable à 61 euros parce qu'auparavant, l'impôt coûte plus cher à récolter que ce qu'il rapporte.
Il faut oublier parce que 61 euros, c'est une somme qui est relativement importante par rapport à ce qu'on pourrait demander pour ceux qui gagnent des sommes extrêmement modestes.
Je voudrais vous faire entendre à tous les trois, Gilles Carrez, il est député Les Républicains, il est ancien président de la commission des finances de l'Assemblée et lui, il trouve que c'est une bonne idée de faire payer un impôt sur le revenu au premier euro gagné. Pour lui, la symbolique d'une contribution fiscale de chacun pour le pays est essentielle. On l'écoute.
Si certains de nos concitoyens ont l'impression que tout est gratuit parce qu'ils ne payent pas d'impôts, eh bien, ils ont un comportement qui n'est plus responsable. Et c'est très difficile de leur faire comprendre que les services publics, que ça a un coût, que ça doit être respecté. Et donc, il faut faire très attention à ça.
Hélène Risser.
Sur le principe, effectivement, enfin, ça a été dit et par de nombreux économistes, de nombreux spécialistes, que c'est important, effectivement, symboliquement, de participer, de payer, même si, comme vous le disiez, ce n'est pas forcément rentable.
Donc vous venez de me dire l'inverse de ce que vous m'avez dit il y a 5 minutes.
Mais, il y avait un mais. Mais comme la CSG est aussi une forme d'impôt sur le revenu, de fait, cet impôt existe à travers la CSG. Donc on voit bien qu'il y a une grande ambiguïté dans les mots. C'est tout le problème.
Michael,
oui,
puis Corinne
Lepage. En régissant à ce que vient de dire Gilles Carrez, le problème effectivement, c'est que beaucoup aujourd'hui de nos concitoyens ne voient pas à quoi sert le fait de payer un impôt. Donc peut-être aussi faudrait-il qu'ils en aient un peu plus la conscience. Peut-être qu'il faudrait-il aussi qu'il y ait des services gouvernementaux ou autres départementaux qui expliquent au fond à quoi sert finalement les impôts qui sont payés. Et peut-être aussi faudrait-il changer l'affectation. C'est-à-dire, au fond, eh bien, celui qui est dans la Creuse, il doit être capable de voir à quoi a servi son impôt. On doit pouvoir lui dire, plutôt que de dire l'impôt est fongible, on le fond dans
la
toute la caisse de la nation.
Rassurez-vous,
il y a de très bons équipements.
Attendez, vous voulez que les gens de la Creuse voient le fruit de leur impôt dans la Creuse
parce qu'on ne leur dit pas.
Mais vous imaginez ce qui va se passer. Comme les plus hauts revenus se trouvent à Paris, les impôts, le ruissellement de l'impôt va arriver que sur la région parisienne. Ça va être encore pire.
Peut-être devra-t-on arriver à cette fameuse réforme fiscale qui commençait, je vous rappelle, chaque meeting du candidat Hollande il y a quelques années et qui n'a jamais vu le jour.
Ah oui.
Donc peut-être faudrait-il finalement commencer
on
à remettre
à plat.
Et la réforme fiscale, elle doit être aussi une réforme de la comptabilité publique, parce qu'effectivement la règle de l'universalité budgétaire à laquelle Michael Darmon faisait allusion, c'est ça, c'est que tout tombe dans la caisse, donc il n'y a jamais rien d'affecté à rien, sauf un certain nombre de techniques sur lesquelles je n'entrerai pas, mais qui sont peu utilisées. Et puis peut-être aussi de regarder d'une autre manière ce que dit la Cour des comptes, parce que je suis désolée, quand vous payez votre impôt et que vous avez effectivement le sentiment qu'il y a du gâchis, qu'il y a des sommes qui sont utilisées à n'importe quoi, pour faire n'importe quoi, et que tout le monde s'en fout, puisque finalement il n'y a jamais de sanction à tout ce que dit la Cour des comptes, il y a aussi une forme de mépris, je trouve, du contribuable.
Et vous parliez, Corinne Lepage, de l'affectation de l'impôt, et notamment, on pense à la fiscalité écologique, où les gens sont bien rendus compte que les prix à la pompe ne servaient pas du tout à construire des éoliennes et avoir des champs plus verts. On en parle juste après ça.
Il est 19h39, la suite de notre grand débat d'actu sur Europe 1 avec vous Philippe Blondel et vos invités, Michael Darmon de la rédaction d'Europe 1, Hélène Risser, journaliste à Public Sénat, et l'ancienne ministre de l'Environnement, aujourd'hui présidente de CAP21, Corinne Lepage.
Je me tourne vers vous, Corinne Lepage, et vers l'écologiste que vous êtes. Que va devenir la fiscalité écologique ou écologiste et la transition écolo? Qu'avez-vous pensé de l'abandon de la hausse de la taxation des carburants, notamment le diesel, sous la pression des gilets jaunes? Haute hausse votée par tous les partis depuis le Grenelle dans l'environnement. Parce que là, on parle de l'affectation de l'impôt.
Si vous voulez, c'est catastrophique, comme l'a été du reste l'abandon par Ségolène Royal de l'écotaxe.
On voit toujours les portiques et c'est toujours pas réglé avec les Italiens.
On voit toujours les portiques. On aurait pu faire tout à fait autrement puisque les Alsaciens, eux, en voulaient et voulaient commencer. Il n'y avait qu'à commencer par les Alsaciens qui en voulaient et voir ensuite ce que ça donnait. Bon, résultat des courses, on est envahi par les camions qui viennent pas de chez nous, qui partent, qui sortent de chez nous, qui achètent rien en France, et c'est lamentable. Bon. Donc, ceci étant, je comprends aussi la position du gouvernement, parce que très franchement, on est dans une situation politique qui est, pour dire les choses de manière très diplomatique, très compliquée. Le gouvernement a essayé de temporiser un peu. Ceci dit, le sujet va évidemment revenir. Il va revenir parce que nous avons besoin de financer la transition énergétique, d'une manière ou d'une autre, et qu'il va bien falloir le faire. Alors que si on ne veut pas augmenter globalement la fiscalité, ce qui à mon avis est plutôt une bonne idée, eh bien, il va falloir un, faire des économies, et deux, utiliser une autre fiscalité. Supprimer une fiscalité pour créer celle-là.
Hélène Risser.
Oui, il y avait quand même une grosse ambiguïté, et je pense que c'est ça le problème sur cette hausse de la taxation des carburants, parce que ce n'était pas vraiment une écotaxe, c'était une hausse de la taxation qui allait là encore dans le pot commun. Et oui. Pour que l'écotaxe soit acceptée, il faut, là pour le coup, qu'il y ait un fléchage très, très clair, très précis, et ne pas se retrouver avec voilà, l'impression de payer un impôt supplémentaire, un impôt prétaxe. Et je pense que là, d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que Emmanuel Macron n'a jamais autant défendu le principe de l'écotaxe qu'après le démarrage du mouvement des Gilets jaunes, quand il fallait justifier a posteriori la hausse de la taxation des carburants. Donc on a l'impression que c'était plus une opportunité, on va dire, qu'il a rendu aussi militant qu'une réalité au départ.
J'oublie l'écotaxe, mais je reste sur le chapitre, le champ du président Macron. Je vais parler du salon de l'agriculture, puisque là, il est beaucoup question du territoire. Hier, on l'a entendu, un beau discours avec de belles envolées, je dis ça sans aucune ironie. Qu'en avez-vous pensé? Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il a battu son propre record avec 14 heures passées au salon de l'agriculture. Il a quitté hier les lieux à 23h27, alors que le salon était fermé depuis 19h. Quel sens il faut y voir, Mickaël Darmon? Je vois... Vous regardez une petite terre par en dessous.
Non, c'est intéressant.
C'est intéressant. Ironique.
On se demande si au fond, on va maintenant calibrer la réussite de la visite au salon par l'heure.
C'est ce qui a été relevé dans toute la presse ce matin, exactement.
Mais en même temps, ça n'est pas une nouveauté. Ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron adopte le code Chirac Hollande. C'est-à-dire, c'est retour au vieux monde. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que, flatter effectivement, avant, il parlait plutôt des robots, et là, maintenant, il est plutôt allé voir les veaux et les chevreaux, parce que c'est effectivement, c'est comme ça qu'il récupère la légitimité. Et il avait besoin de pouvoir montrer, et ça a été, pour le coup, démontré, qu'il peut passer 15 heures au milieu de Français très divers, à la fois les visiteurs, à la fois les agriculteurs, les exploitants, les syndicalistes, et tous ceux qui pouvaient l'approcher. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu de tension, à part évidemment ici ou là, c'est normal, mais on n'est pas à Casse-toi pauvre con, on n'est pas aux tensions qu'il avait pu y avoir.
Il n'y a pas de jet-off.
Il n'y a rien. Voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est une note d'ambiance très intéressante pour l'Élysée.
Alors, j'ai quand même une information à donner, c'est une info qui avait été donnée par BFM TV hier, c'est que 200 militants La République En Marche faisaient une sorte de cordon sanitaire autour du président. Et pour avoir été hier sur le salon, je ne sais pas s'ils étaient encartés, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y avait du monde à droite, à gauche, devant, derrière, autour du président, oui. Et que moi qui suis petit, je n'ai pas réussi à le voir.
Parfait,
voilà.
Très bien. Donc il y avait 200 personnes, mais est-ce que ce sont ces 200 personnes qui ont fait qu'il a pu passer 15 heures sans avoir d'ennui?
Peut-être cela a-t-il évité ça fait... les casse-toi pauvre con. Éric Drouet, un des leaders des Gilets jaunes autoproclamés, voulait le croiser,
mais ceux qui auraient voulu tenter ou décider de faire une bronca, il aurait fait au-delà de ce cordon-là,
c'est
et on
faux.
L'aurait entendu, et toutes les caméras et les médias l'auraient bien évidemment répercuté. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est cette information sûrement avérée, confirme une fois de plus que c'est également le retour à la politique.
Exactement.
C'est-à-dire que quand on va
faire
l'agriculture, on y va avec ses militants, parce qu'au moins, on aura 200 personnes qui vont applaudir.
Avec la claque. Hélène Risser.
Sachant que Emmanuel Macron, alors certes, il est resté très longtemps cette fois-ci, mais il avait été au Salon de l'agriculture en tant que candidat déjà assez longuement. L'année dernière, il était resté également 12 heures. Donc, c'est pas nouveau ce désir de vouloir se montrer à l'aise, effectivement, dans ce rituel
que vous avez cité
du Salon de l'agriculture.
Pardon, je veux dire, là où je partage son sourire, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois, il fait mieux que le coup d'avant,
comme
les réunions publiques.
Voilà, on attend l'année prochaine. Et puis, je pense aussi que, bon, c'est sûr qu'il y avait la crainte, sans doute, de la part de l'Élysée, qu'il y ait des gilets jaunes qui viennent, qui soient interpellés. Mais après, je pense que de la part du monde agricole, santé qu'il y ait un monde agricole, enfin, on va dire des agriculteurs, là, je pense qu'il y a pas mal d'attentes vis-à-vis du président de la République et que l'envie, c'est plutôt de dialoguer, de discuter, d'exposer des problématiques plutôt que de le huer. Je pense pas que ce soit ça l'attitude aujourd'hui.
Alors, après la forme, le fond, dans son discours, le président de la République a cherché à séduire les agriculteurs bio, mais pas seulement eux, je vais le citer. Les agriculteurs, a dit le président, doivent devenir les premiers militants de la transition écologique et une part significative de la PAC doit être consacrée à l'environnement. Qu'en pensez-vous, Corinne Lepage ?
J'attends les actes. Moi, j'étais députée européenne quand on a voté la précédente et j'ai vu l'action, je dirais, extrêmement négative du gouvernement français sur ce qu'on appelait le verdissement de la PAC. et la manière dont les
c'était
fonds...
C'était quand, pardonnez-moi, qui était, oh, qui était
écoutez,
aux affaires
c'était en 2011-2012, donc c'était la fin de Sarkozy.
D'accord.
Je pense que c'était à peu près cette époque-là. Début Hollande, enfin c'était 2011, je pense.
Vous dire que vous mettez le gouvernement Sarkozy et Hollande dans le même panier,
bon,
si j'ose
c'était
dire.
La même attitude, c'est-à-dire une attitude qui était dictée en fait par ce que souhaitait la FNSEA, soyons tout à fait clair, qui ne voulait pas de verdissement de la PAC, point barre. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour que ne pas. Voilà, donc moi je veux bien, j'attends le passage à l'acte sur ce sujet. Je n'ai pas entendu tout le discours du président. Il y a une chose où je partage totalement son point de vue, c'est sur la souveraineté alimentaire. C'est un vrai sujet, extrêmement important, parce que nous sommes totalement dépendants de l'importation du soja, OGM ou pas, du reste, mais enfin du soja américain, OGM de surcroît, que nous n'avons pas de politique de protéines, parce que depuis les accords de Blair-House en 1960 quelque chose, nous avons abandonné la politique des protéines. Donc il faut qu'on se reconstitue toutes ces politiques-là, et là-dessus je suis 300% d'accord avec lui.
Et sur la PAC, 20% des agriculteurs qui touchent 80% des aides, est-ce que ça ne pose pas un problème ?
Ça, c'est une donnée de base quand on connaît depuis des années la technique, le principe de la co-gestion, hein, puisque c'est le gouvernement qui co-gère toute la politique agricole avec la FNSEA, ce qui pose effectivement beaucoup de problèmes lorsqu'on veut s'inscrire en dehors de ces schémas. Moi, je connais aussi beaucoup de petits producteurs ou d'associations qui prônent justement un travail écologique et avec donc du développement durable. Eh bien, c'est difficile sur le plan de la vie dans les territoires de pouvoir exister et se développer en dehors, en marge, à côté de ces instances qui imposent de passer par leur fourche caudine.
Ça sera ma dernière
question.
C'est
quand même une co-gestion permanente avec la FNSEA.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème du fait que l'aide est versée en fonction des surfaces, du nombre de têtes et pas en fonction de l'humain ?
On s'était battu en plus pour que ce soit plafonné, parce qu'il y a des têtes couronnées, je suis désolée de le dire, qui touchent des dizaines de millions d'euros de la PAC. Très franchement, je ne suis pas sûre qu'ils en aient besoin. Par contre, nos petits producteurs, je pense en particulier au bio, ils en ont besoin. Dernier point, je voudrais dire ici que à ce jour, les subventions bio ne sont pas versées aux agriculteurs depuis maintenant de très longs mois et que ça les met dans une situation absolument intenable. Absolument.
Exactement, et notamment avec leurs banques. On va justement parler du bio et d'autres promesses juste après ceci.
19h49, suite et fin de notre grand débat d'actu sur Europe 1 avec vous Philippe Vandel et vos invités de ce dimanche 24 février. Nous avons déjà l'éditorialiste politique Mickaël Darmon de la rédaction d'Europe 1, la journaliste Hélène Risser, son émission Hashtag, eh bien on la retrouve sur Public Sénat, et bien sûr l'ancienne ministre de l'Environnement, aujourd'hui présidente de CAP21, Corinne Lepage.
Alors, au Salon d'agriculture, dans son discours hier matin, Emmanuel Macron s'est également attaqué au glyphosate. Je le rappelle, un désherbant considéré comme cancérogène probable par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui divise l'Europe et qui divise le monde agricole. Je cite le président, « Quand je regarde le vignoble français, je pense que nous pouvons faire le premier vignoble du monde sans glyphosate. » Corinne Lepage, vous va ouvrir des grands yeux, vous y croyez ?
Non, pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une partie de notre vignoble qui est en conversion quand même et qui utilise beaucoup moins de pesticides, ça se voit. Vous regardez deux vignobles, il y a des herbes dites mauvaises dans l'un et c'est la terre est nue dans l'autre. Cherchez les herbes.
Il faut boire lequel ?
Moi, je préfère celui où
il y a
des mauvaises herbes. Bon, il y a un énorme... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vient de très loin. Deuxièmement, je rappelle quand même qu'il y a deux mois, le tribunal administratif de Lyon a annulé une autorisation de mise sur le marché de Roundup Pro contenant du glyphosate pour une raison qui touche en fait au fond du problème et pas à ce Roundup-là. Nous avons demandé au gouvernement d'exécuter cette décision et de mettre un terme à tous les Roundup contenant du glyphosate, précisément en raison des risques que cela concourait. Zéro réponse. Donc moi je veux bien qu'on me raconte tout ce qu'on veut, mais voilà, ça c'est la vraie vie, c'est la réalité.
Zéro réponse, c'est une directive du tribunal, une décision du tribunal, Hélène Risser.
Oui, mais après sa phrase, moi je trouve qu'elle n'est pas si claire que ça. Et globalement, dans son discours, il était relativement ambigu sur cette question du glyphosate, où on voit très bien qu'il a fait, ça a été un pas en avant, un pas en arrière. Il a commencé par dire qu'il fallait sortir du glyphosate en 2020, puis après dans le cadre du grand débat, il est intervenu en disant que ce serait en 2020, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc, Donc on voit très bien qu'il y a une ambiguïté qui renvoie d'ailleurs à ce qui était dit tout à l'heure sur qui fait la politique agricole, est-ce la FNSEA, dans quel intérêt, quels sont les rapports du gouvernement avec les différents lobbies. Et dans sa phrase, il dit « Je regarde effectivement le vignoble français quand je le regarde. Je pense que nous pouvons faire le premier vignoble du monde sans glyphosate. Mais déjà, je pense que nous pouvons... » Enfin, il n'est pas du tout dans le volontarisme, il est dans l'observation. Mmh. Et après, il ajoute « Cette transition va d'ailleurs s'effectuer dans 80% des cas. » Donc, il faut savoir, est-ce que c'est le premier vignoble sans glyphosate ou est-ce que c'est 80% du vignoble sans glyphosate ? Donc, pour moi, on est vraiment dans quelque chose de très, très ambigu et pas très volontariste.
Je vais être totalement cynique à dessein. Mickaël Darmon, est-ce que c'est pas ça la politique ? Est-ce que c'est pas ménager la chèvre et le chou
si ça
et
se voit
promettre
beaucoup,
à chacun ce qu'il a envie d'entendre ?
Si ça se voit trop,
en l'occurrence,
est-ce que c'est pas le « je vous ai compris » de Gaulle ?
Si ça finit par se voir, c'est un problème. Mais en même temps, comme dirait l'autre, c'est fait également pour ça. Ce sont des mots marqueurs.
C'est du vieux pieux.
Je pense que nous pouvons faire sans glyphosate. De dire « sans glyphosate
ouais, », ça permettra, phrase, quoi.
Ça permettra de dire « voilà, j'en ai parlé, je l'ai évoqué ». Ce qui est très intéressant, c'est que le signal qui est envoyé, alors que nous sommes à la veille de la campagne pour les élections européennes par le président Macron, c'est qu'il y a bien sûr une sensibilité particulière à toutes les thématiques environnementales. Il faut savoir que la question du glyphosate est aussi une question qui divise à l'intérieur de la majorité et qui même fait réagir énormément d'électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron, qui considèrent que le travail n'a pas été fait de ce côté-là. Et la surprise des députés, c'est que même les députés dans les électeurs, plutôt dans les zones urbaines, ont réagi fortement à toute la question du glyphosate. Récemment encore, il y a eu des croisements qui ont été faits, je dirais, entre les députés un peu plus contestataires et ceux qui votent contre le glyphosate, et on voit bien que ce sont les mêmes. Donc c'est une question qui est contemporaine, la conscience du rapport à l'environnement, même si tout le monde n'est pas concerné directement parce qu'il n'est pas, tout le monde n'est pas agriculteur. Mais cette conscience environnementale est en train de charpenter une nouvelle culture politique.
Je voudrais donner ici l'argument des agriculteurs, parce que sinon on ne comprend pas. Parce que
de quels agriculteurs
à la base, des grands agriculteurs qui l'utilisent. C'est qu'à la base, on est tous ici autant que nous sommes, et les gens qui nous écoutent, contre les produits chimiques et les produits toxiques. Sauf que l'argument est le suivant. Nous, si on l'interdit, on l'interdit en France, et dans les autres pays, ils continuent à l'utiliser. Donc, ils ont une production qui a un meilleur rendement, et donc nous sommes pénalisés. Corinne Lepage.
C'est vrai que c'est une décision qui doit être prise au niveau européen, ça j'en conviens tout à fait. J'observe du reste qu'il y a un procès qui est fait à la Cour de justice de l'Union européenne contre la Commission qui a autorisé le renouvellement du glyphosate. Donc c'est un sujet qui est dans tous les pays européens, et il y en a qui ne veulent pas de glyphosate. Bon, c'est pas la généralité des cas, mais
ou en
ça
tout cas
peut
l'Espagne,
exister.
Ceux contre qui notre agriculture se bat, à savoir
l'Espagne, la Pologne, tout ça,
voilà.
Oui,
ils en utilisent. Elles sont
bon,
glyphosate.
Ceci étant, quand vous voyez ensuite que vous faites des analyses d'urine de monsieur, madame, tout le monde, y compris des députés, et qu'on trouve toutes les cochonneries qu'on veut dans sa propre urine, dans son propre sang, on trouve que l'histoire est beaucoup moins rigolote.
Oui, on trouve. Alors là aussi, encore, on peut relativiser parce que. On trouve toutes les cochonneries, Yves Jadot le racontait récemment, mais à des doses infinitésimales.
Ça dépend lesquelles.
Non, ce qui est, vraiment, dépend je lesquelles. Pense que c'est le glyphosate. Bien sûr, il faut être expert pour pouvoir définir en quelle mesure c'est compliqué, pas compliqué, nocif ou pas, ou économiquement viable. Mais c'est, ce qui est intéressant, c'est le rôle politique que joue ce mot. C'est-à-dire qu'il participe maintenant à la prise de conscience de l'urgence environnementale, du fait qu'on ne peut pas continuer comme cela d'une manière ou d'une autre. Même ceux qui ne comprennent pas grand-chose disent qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'en plus c'est un mot qui est bien construit pour faire peur. Oui. Donc au fond, c'est ça qui est important, c'est qu'il a une espèce d'existence inattendue au-delà de son propre sujet, qui est de devenir un marqueur politique.
Corinne
J'ajouterais que c'est dû aussi au fait que le procès qu'il y a eu aux États-Unis de Dewey Johnson au mois de juillet de l'année dernière.
Il faut raconter. C'est un agriculteur
qui a été qui est en cancer final, en phase finale d'un cancer, dont le tribunal a jugé qu'il était probablement lié au glyphosate, qui a condamné Monsanto à lui payer plusieurs centaines de millions de dollars, ramené en appel à 80 millions de dollars, mais avec la confirmation du principe, c'est-à-dire que c'était probablement le glyphosate qui était à l'origine de son cancer. Et ça a été un boom mondial, cette histoire-là. Du reste, il y a 5000 cas qui suivent derrière. C'est des lymphomes non-Hodgkiniens, enfin peu importe. Il y a 5000 cas qui suivent derrière et vous en avez maintenant dans le monde entier.
D'un mot, parce qu'il nous reste 15 secondes, pourquoi ce genre de procès ne peut jamais avoir lieu en France ?
Ah ben attendez, il y en a en ce moment.
Y a Paul J'ai jamais François. Vu un tribunal condamner une firme à 350 millions.
Ah non, ça non.
Mais dès que vous avez ce chiffre, on s'appelle. Hein.
Non.
Parce qu'il y en a, il y a Paul François.
Il y a Paul François, il y a Madame Grattadoux qui a mis en cause Monsanto pour son petit garçon qui,
oui, mais les montants
qui est malfant. Ah ben là, c'est pas encore jugé.
Voilà.
Mais c'est pas dans tous les cas de figure, vous n'avez jamais les mêmes montants en France et aux États-Unis. C'est tout à fait clair. C'est comme ça.
Mais je pense que c'est pas une. Enfin,
mais c'est pas
montant,
seulement le montant. C'est le principe.
C'est pas seulement le montant. Je pense que c'est effectivement le principe et ce glyphosate qui est devenu. Je vois que Philippe fait signe de me taire.
Oui, non. Je fais signe qu'il y a une chose qui est exacte, qui est la même aux États-Unis et en France, c'est les délais et les temps à la radio. Merci beaucoup Hélène Risser, parce que vous aviez la parole. Merci Mickaël Darmon, qui lui connaît l'horloge. Merci beaucoup Corinne Lepage. J'étais ravi de vous avoir ici.
Merci
avec moi,
Philippe.
Autour de moi, dans un instant sur Europe. On va retrouver Europe 1 Sport, un peu spécial avec Lionel Rosso. Salut Lionel, c'est quoi le programme ?
Salut Philippe, un très joli programme avec notre match Monaco-Lyon, mais surtout une nouvelle émission. Le studio des légendes.
Ouais.
Charles Bietri, Guy Roux, Charles Villeneuve, Jean-Claude Perrin, Dominique Grimaud. Rien que ça, à votre service pour des débat passionné avec beaucoup d'expérience.
Et ben, je peux dire que ça m'étonnerait que vous arriviez à tenir le chrono avec ces quatre-là. Bon courage.
Je vais tout faire.
Merci
pour
Lionel.
Que ce soit le cas.
Nous, on se retrouve samedi prochain à 18h. Marlène, vous serez là.
Oui.
Bonne semaine à tous. Bonne soirée sur Europe 1.
Bonsoir.